Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
À 17h06, salut à tous, merci d'être avec nous pour la suite de l'Intégral Sport sur RMC jusqu'à 19h avant de laisser la main à Sarah Pitkowski et Jean-Christophe Drouet pour Bartoli Time avec en invité exceptionnel aujourd'hui Raphaël Nadal, rien que ça pour ce qui sera peut-être son dernier Roland-Garros, mais rien n'est moins sûr. En attendant, on vous présentera tous les enjeux du tournoi et on sera évidemment en direct toute la journée porte d'Auteuil. Richard Gasquet en ce moment sur le court central, il mène 5-4 face à Borna Koric. On va parler foot aussi avec coach Courbis et Marion Hédalo pour revenir sur la finale de la Coupe de France hier soir, la victoire du PSG face à Lyon pour clôturer une saison qui fait déjà parler, tout comme la dernière d'ailleurs de Kylian Mbappé. Et puis des invités, Denis Sapia, le latéral droit de Saint-Etienne, alors que les Verts ne sont plus qu'à une marche de retrouver la Ligue 1. Et puis Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis aussi, dixième du dernier Tour de France, qui sera notre invité. Mais tout de suite, place au direct, ce Grand Prix de Monaco, 8e manche du championnat du monde de Formule 1, toujours aussi passionnant, beaucoup de rebondissements dans ce Grand Prix qui a traîné en longueur. Salut Jean-Luc Roy.
Oui, bonjour Flora.
Alors nous, on prend en cours de route avec toi Jean-Luc, on va quand même faire un point sur la situation maintenant avec Charles Leclerc qui est toujours en tête.
Absolument, depuis le départ, depuis le restart, le deuxième départ, course neutralisée, on le rappelle, dans le premier tour à la suite des différents carambolages, notamment le plus impressionnant entre Magnussen, Pérez et Hülkenberg, et puis il y en a eu un autre, on l'a su plus tard, entre les deux Alpines à la sortie du virage du Portier. Donc on a donné un nouveau départ pour 76 tours. Là nous sommes dans le 64e des 78 tours au total prévus, donc ça veut dire qu'on est à une grosse douzaine de tours de l'arrivée. Et pour le moment, eh bien, Charles Leclerc est toujours leader avec une seconde 6 d'avance sur la McLaren de Piastri. Derrière, on a un écart qui s'est creusé un petit peu. 2 secondes 7 plus loin, on a l'autre Ferrari, celle de Carlos Sainz, qui lui est poursuivi par Lando Norris, la deuxième des McLaren. Et puis derrière, eh bien, on a George Russell avec la première des Mercedes. Alors lui, il doit résister depuis 2 tours maintenant aux assauts de Verstappen. Verstappen est repassé par la voie des stands il y a 11 tours exactement. Il a des pneumatiques donc beaucoup plus frais que ceux de Russell et il fait tout pour essayer de le dépasser, en sachant que Hamilton derrière évidemment profite de la bagarre entre les deux hommes pour remonter dans le sillage de la Red Bull de Verstappen.
Ouais, ça c'est tout le suspense aussi de cette fin de Grand Prix. Où en est-on aussi Jean-Luc sur les arrêts à venir, notamment pour les hommes de tête, parce qu'on sait que sur ce circuit si particulier à Monaco, ça peut se jouer aussi dans les stands hein.
Et oui, là je commence à me poser la question parce qu'on a atteint le 65e. Ouais, ça tarde, des 78 tours. Donc on tire vraiment jusqu'au bout si possible du côté des deux Ferrari et du côté des deux McLaren. Il faut dire qu'on a bien économisé les pneumatiques hein, au début. On sait qu'il est très difficile de dépasser sur ce tracé de Monaco. Donc Charles Leclerc a pu adopter le rythme convenable pour ménager ses pneumatiques. Derrière, je l'avais signalé, il y avait des petits soucis parce que Piastri était très très proche pendant un moment. D'ailleurs, l'ingénieur lui a dit donne un peu d'air, laisse partir un petit peu, et là à une seconde et demie environ ça va, il n'est plus dans la boule de feu dégagée par la monoplace qui le précède. Et puis même jeu et même duo et même duel entre Carlos Sainz le troisième avec la deuxième des Ferrari et Lando Norris avec l'autre McLaren qui est dans le sillage de Sainz mais qui ne parvient pas à trouver l'ouverture pour le moment, donc c'est vraiment très serré, rien n'est joué là hein. On ne peut pas savoir ce qui va se passer d'ici l'arrivée, il reste encore 12 tours là exactement.
Ouais, puis on va rappeler tout l'enjeu aussi de ce Grand Prix évidemment pour Charles Leclerc, alors déjà pour sa première victoire de la saison après laquelle il court, mais aussi parce qu'on est chez lui sur ses terres à Monaco et qu'il n'a encore jamais gagné ici, et ça évidemment on lui en a parlé toute la semaine, il le sait, il avait cette pression aussi mine de rien sur les épaules.
Ah oui, pression énorme évidemment, d'abord pour lui hein. Et d'ailleurs il ne s'est jamais imposé dans aucune compétition automobile sur ce tracé, il a roulé dans d'autres catégories, il n'est jamais parvenu à s'imposer dans les rues de la Principauté, comme tu le disais, bah, il connaît le parcours centimètre par centimètre hein, puisqu'il vivait là, c'est pas un monégasque d'adoption comme plus de la majorité du plateau,
des pilotes,
enfin, il vit là, mais voilà, lui c'est un vrai monégasque, ses parents, son papa qui était pilote également et était monégasque, et puis du côté donc de la Ferrari, on a vu cette montée en puissance depuis la prise de pouvoir entre guillemets de Fred Vasseur au début de la saison dernière, qui est en train de composer et de remonter la Ferrari au niveau des meilleurs, hein. Et on voit que c'est le cas aussi de McLaren, parce que là clairement les quatre hommes forts, ce sont les deux pilotes Ferrari, les deux pilotes McLaren, et derrière, même si la Mercedes de Russell surnage pour le moment, on est quand même loin, on est à 20 secondes du leader pour le moment.
Suspense total. Je sais que toi aussi tu trembles devant ton, devant les écrans.
J'observe tout là.
Il y a encore un petit peu de temps. Alors le temps qu'on voit, si dès qu'il se passe quelque chose, tu nous dis Jean-Luc, hein, si l'un des hommes de tête s'arrête, notamment Charles Leclerc, on sera avec toi. On va juste faire un détour par la porte d'Auteuil, évidemment, parce que c'est le premier jour à Roland-Garros, le grand chelem parisien, le premier tour, ça y est, c'est parti. On le suit évidemment sur le cours Philippe Chatrier, notamment avec Eric Salio et Florent Serra. Salut messieurs.
Salut Flora.
Bonjour à tous.
On est en train de suivre notre Richard Gasquet national dans ce premier set très serré. On s'approche de la fin du premier set, mais ça a du mal à se départager. Hein.
Oui, c'est très indécis comme partie. On est à 5 jeux partout dans cette première manche. Richard Gasquet est au service et si tout va bien, il va remporter ce 11e jeu puisqu'il est à 40-15. Mais voilà, c'est un peu l'affrontement auquel on s'attendait, hein, Flo, avec beaucoup d'échanges de fond de cours. Richard qui est plutôt inspiré. Même si là, j'espère qu'il va pouvoir conclure avec un court croisé et une volée derrière. C'est magnifique, c'est du cousu main. 6-5.
Ouais, la deuxième volée gagnante de ce jeu magnifique, et c'est bien de rester devant parce que vous savez qu'il avait été breaké un petit peu plus tôt dans ce set et puis il est revenu. C'est déjà une première manche qui dure 50 minutes. Donc voilà, physiquement, pour l'instant, Richard se déplace très bien. Il n'hésite pas à aller au filet face à un Djokovic qui paraît un peu timide parfois, qui fait aussi beaucoup de fautes directes. Donc il y a peut-être un petit coup à jouer, en tout cas déjà dans ce set. Par contre, quand on le voit au changement de côté, Richard, sent qu'il...
Ça, c'est un peu inquiétant, oui.
C'est pas très rassurant. Il a l'air fatigué.
Il a les genoux.
Il a 37 ans, Flora, quand même.
Oui. Mais moi, je suis pleine d'espoir pour Richard Gasquet dans ces matchs-là. Donc, et on entend en plus derrière vous, messieurs, le court Philippe Chatrier, là, qui est derrière lui.
Non, c'est de l'Anglaine.
Ah, l'Anglaine, pardon.
Et sur le Chatrier, en revanche, on va en parler. C'est Caroline Garcia qui est sur le court depuis 23 minutes. Elle est menée 3 jeux à 2 par la qualifiée allemande Eva Lis. Caroline Garcia, donc, qui effectue son entrée en liste. Elle aussi, donc, joue en condition indoor, puisque je rappelle qu'il a. On a eu un gros
Grain
tout à l'heure.
Oui, une petite averse,
Oui, et les cours ne sont toujours pas. S'ils sont débâchés, en principe. Ça va reprendre à 17h15, donc dans quelques minutes, mais on a pris presque une heure de retard. C'est-à-dire qu'on va finir très très tard, mais bon, maintenant on a l'éclairage.
C'est que le premier jour.
Oui, c'est que le premier jour, mais on est motivé, hein, Flo.
Bien sûr qu'on est motivé.
Alors si on ne l'est pas maintenant, messieurs, je ne sais pas ce qu'il faut. On fera un point d'ailleurs avec vous, hein, messieurs, tout à l'heure sur les enjeux principaux de ce Roland-Garros. On parlera notamment de Raphaël Nadal, qui, on vous le rappelle, sera l'invité ce soir de Marion Bartoli, Jean-Christophe Drouet dans Bartoli Time. On reviendra avec vous sur tous les enjeux et sur nos Français, évidemment, messieurs, dans ce tournoi. On fait un petit détour par Monaco, si jamais Richard Gasquet remporte le premier set, surtout vous nous dites. Mais on est toujours avec Jean-Luc Roy pour la fin de ce Grand Prix de Monaco passionnant. Jean-Luc, on s'approche des 8 derniers tours maintenant.
Ah oui, c'est chaud bouillant là, effectivement. Ça doit bouillir dans la tête notamment de Charles Leclerc, hein, le monégasque, qui court après une victoire. Ça fait un moment maintenant, depuis 2022, c'était en tout début de saison, donc faut remonter à l'Australie. Charles, il ne compte que 5 victoires au compteur, hein, finalement. Donc ce serait après cette pole position qui était la 24e de sa carrière de pilote de Formule 1, la 3e dans les rues de Monaco. Bon, on va pas lui porter la poisse. Hein, il reste encore 9 tours à parcourir, 9 tours ici à Monaco entre les rails. On voit les pilotes, hein, souvent lécher le rail, notamment dans les S de la piscine. C'est extrêmement impressionnant. Là, on pilote plus au centimètre, on pilote véritablement au millimètre, hein, là. Puis on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, sur un ralenti aussi, on a vu Lando Norris en 4e position, qui remontait sur Carlos Sainz et qui lui aussi, à la sortie de Sainte-Dévote, hein, dans le premier virage, est venu vraiment. Il était à moins d'un centimètre du rail. C'est pour te dire, quand je te dis que c'est pilotage au millimètre. C'est vraiment, on ne met pas une main à plat, on ne la met pas entre le rail et le pneu.
Et puis j'imagine aussi que ça doit chauffer dans les têtes de Ferrari, parce que Carlos Sainz pour le moment aussi tient sa place sur le podium. Et quand on voit le début de saison aussi parfois compliqué de la Scuderia, ça pourrait leur faire du bien, en tout cas si ce double podium se dessine.
Ah ben c'est clair, là, de toute façon, la bataille est engagée depuis le début de la saison, mais là, on a bien compris que les Ferrari avaient notablement progressé. On a eu la petite déception du dernier Grand Prix et Charles le concédait volontiers où il n'était pas parvenu à Imola effectivement à signer la pole, ce qui aurait changé le déroulé de la course, puisqu'on a vu Verstappen déjà en grande difficulté, pressé jusqu'au bout par Lando Norris, hein, qui termine à 7 dixièmes. Et là, c'est la concrétisation du fait que ça y est, la Red Bull n'est plus la monoplace dominatrice, loin s'en faut, puisque Verstappen 6e est dans le sillage de la Mercedes de Russell, mais lui aussi n'est pas parvenu à trouver l'ouverture. Et ça profite évidemment à Lewis Hamilton, 7e, qui remonte dans le sillage de la Red Bull. Donc tu vois, dans les tout derniers tours, alors on est à 8 tours de l'arrivée, il peut se passer encore énormément de choses, en tout cas pour les places devant. Et puis on rappelle que Tsunoda est toujours 8e, Albon 9e, Gasly, solide détenteur du 10e point jusqu'au bout, avec une douzaine de secondes d'avance sur Fernando Alonso. Donc là aussi, sauf incident ou accident ou crevaison, hein, on a vu certains pilotes dont Stroll crever, donc ça peut arriver. À force de passer au ras des rails et des trottoirs ici à Monaco, la moindre erreur peut se traduire par une crevaison.
Ouais, tu nous as parlé justement de Pierre Gasly. Pour ceux qui nous rejoignent aussi à l'écoute d'RMC, peut-être qu'il faut revenir aussi sur cet événement qui a eu lieu entre les deux Alpines au début du Grand Prix, avec Esteban Ocon qui lui n'est plus en course du coup. Hein.
Et oui, on l'a su un petit peu plus tard, puisqu'on était d'abord focalisé sur l'énorme crash hein, qui s'est produit dans la montée de Beau-Rivage, où Magnussen a essayé de glisser le museau de sa Haas, donc le long de la Red Bull de Pérez, qui partait très loin, on rappelle, hein, 16e sur la grille, alors que Magnussen lui partait 20e. Il avait pris un très bon départ d'ailleurs, Magnussen, et donc il a poussé la Red Bull dans le rail, donc ça a été très violent. On a eu des débris, heureusement pilote indemne, hein, ça on l'a vu tout de suite, donc drapeau rouge immédiatement. Mais dans l'intervalle, devant, eh bien, Esteban Ocon avait tenté un dépassement sur son équipier Pierre Gasly. Il partait respectivement 10e pour Gasly, 11e pour Ocon. C'était à la sortie du virage du portier, à l'entrée du tunnel. Eh bien, il grimpait avec la roue arrière gauche sur la roue avant droite de Gasly. Il est monté en l'air assez haut et tout de suite, on a entendu Gasly dans la voiture dire « Mais qu'est-ce qu'il fait ? J'ai rien compris. » Et puis, on a compris que la monoplace d'Ocon également avait été bien durement touchée. On n'a pas pu la remettre en état, donc Ocon n'a pas pu prendre le départ. Il y a eu une déclaration de Bruno Famin, donc le team manager, en disant ça, on va régler les comptes plus tard, mais ça c'est pas bien. Et puis la direction de course s'est prononcée. Où Esteban Ocon prenait le départ, il avait 10 secondes de pénalité, et ce qui n'a pas été le cas, hein, la monoplace abîmée. Donc au Canada, dans moins de deux semaines maintenant, eh bien, il aura 5 places de pénalité sur la grille. Moi je crois pouvoir m'avancer, il y avait déjà des bruits en disant que ça m'étonnerait qu'Esteban continue chez Alpine, et on sait qu'il a des contacts un peu partout.
Hein, ouais, et puis, vu les déclarations effectivement du team manager, ça allait pas vraiment dans son sens, clairement pas. Hein.
Non, et puis ça négocie beaucoup dans le paddock, tu sais, en ce moment, le fameux jeu des chaises musicales.
Alors, où il pourrait aller du coup, Esteban Ocon ?
Eh bien écoute, la place qu'il brigue, surtout que son manager c'est Toto Wolff, hein, tu me vois venir, c'est le deuxième baquet Mercedes. Et oui, qui n'est toujours pas attribué. Alors on sait qu'il y a éventuellement Carlos Sainz qui pourrait venir là. Enfin, on cite de nombreux pilotes, hein, le jeune pilote Antonelli, qu'on regarde avec les yeux de Chimène du côté de Toto Wolff, parce qu'il n'est pas un peu tendre encore pour le moment. Donc est-ce qu'on pourrait mettre Esteban pour un an ou deux chez Mercedes en laissant le jeune Antonelli se faire les crocs chez Williams par exemple? Enfin, je te dis, c'est vraiment le jeu des chaises musicales. Hein. C'est évident qu'autrement, Esteban va, je l'espère de tout cœur, évidemment, retrouver un baquet à la mesure de son talent, qui est grand. Bon, les frictions entre les deux pilotes alpines, je te dis, on en a fait des gorges chaudes avant qu'ils arrivent. Ils s'étaient accrochés, je l'ai rappelé, en Australie, hein, au début de la saison dernière, tu t'en rappelles.
Ouais,
ils s'étaient tellement excusés tous les deux que ça en devenait louche.
Ouais, donc, bon, ils s'étaient dû se faire taper sur les doigts aussi, les deux, pour aller s'excuser. Bah, donc, puis là, ça va être pareil. Ça va être chaud jusqu'au bout, effectivement, pour Esteban Ocon. En tout cas, Pierre Gasly, lui, est toujours en course, 10e pour le moment de ce Grand Prix, mené de main de maître par Charles Leclerc, qui se rapproche petit à petit, tour après tour, de sa première victoire sur ses terres à Monaco. On va à Roland-Garros maintenant. Eric Salio, Flo Serra, ce premier tour sur le Suzanne Lenglen avec Richard Gasquet dans le tie-break.
Ouais, 3-1 pour Richard Gasquet dans ce tie-break. Donc un petit avantage pour le Biterrois, qui est vraiment porté par l'atmosphère du cours Suzanne Lenglen. Je l'avais dit dans l'après-midi, j'ai eu la chance de voir Lucas Pouille contre le Serbe Medjovic au premier tour des Qualifs, parce que c'était en indoor. Il y avait une acoustique extraordinaire. Et là, vous l'entendez, 4-1 pour Richard Gasquet, qui sert remarquablement au flow. Allez, encore 3 petits points et la première manche sera dans la poche.
Ouais, c'est ce qui lui fait du bien aussi à Richard, c'est que malgré quelques filières de jeu longues, son service lui permet d'avoir des points gratuits ou en tout cas un deuxième coup de raquette derrière son service où il peut un petit peu souffler. Et puis il a l'expérience de ses matchs, donc pour l'instant il gère plutôt bien cette première manche qui va dépasser une heure, donc il va falloir ensuite tenir. Mais s'il peut déjà
fiche,
l'avoir,
s'il apprend, on s'en fiche, voilà, on oublie la fatigue.
Surtout ça, c'est que s'il
enfin, vaut mieux Flo, qu'elle soit été sportif de haut niveau quand même.
Il vaut mieux qu'elle soit, oui, de son côté, parce que après quand tu la perds plus d'une heure et qu'il faut en gagner trois derrière, tu vois, tu prends un petit coup derrière la tête.
Service gagnant de Bernard Coric, 4-2. Flo, les deux joueurs donc vont changer de terrain avec. On va boire un petit coup, ils en ont besoin parce que c'est vrai que c'est assez violent sur le plan physique. Mais il y a encore un mini break d'avance pour Richard Gasquet sur le central. 3 partout entre Evalis et Caroline Garcia dans quelques secondes. Donc on aura le verdict de ce tie break.
Suspense total. Donc messieurs, on suit ça avec vous dès le départ de ce Roland-Garros. C'est déjà beaucoup de suspense. On est aussi sur les routes du Giro. C'est la dernière étape aujourd'hui qui va évidemment voir consacrer Tadej Pogacar à l'arrivée. Mais où en est-on en tête, Johan Bredov? Salut Johan.
Salut Flora, salut à tous. Et ben on a 4 hommes échappés. Ça y est, la course qui s'est lancée. Les coureurs qui viennent de passer pour la deuxième fois sur la ligne. Les coureurs qui passeront 9 fois au total sur la ligne d'arrivée dans ce circuit romain. C'est magnifique. D'ailleurs, avec tous les monuments de la ville antique, c'est absolument splendide. Ça nous fait un petit peu penser et beaucoup penser à l'étape des Champs-Élysées. Bien sûr, c'est beaucoup mieux à Paris. Mais voilà, 4 hommes en tête, dont 2 Français, Ewan Kostiou et Alex Baudin, qui sont devant. Michele Onore et Martin Marcelluzzi, l'Italien, les accompagne. 22 secondes d'avance donc sur le peloton mené par les équipes de sprinteurs. On a vu les Alpecin pour Caden Groves, on a vu les Lidl Trek pour Jonathan Milan, les Soudal Quick Step pour Tim Merlier et les Tudor pour Alberto Dainese. Voilà, toutes les équipes de sprinteurs sont lancées à la poursuite des 4 hommes de tête. 22 secondes d'avance pour eux à 62 km de l'arrivée.
Merci beaucoup Johan. Et puis on vous rappelle que tout à l'heure Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis, qui n'est pas sur ce Giro mais qui sera en revanche sur le Tour de France évidemment en juin prochain, sera notre invité. Allez, les derniers tours au Grand Prix de Monaco. Jean-Luc, et toujours pas d'arrêt au stand prévu pour le moment, hein.
Non, bah apparemment il y a eu un message là de Charles Leclerc qui a dit à son ingénieur je vais pouvoir l'amener à la maison. Donc a priori il parlait effectivement du fait de gérer jusqu'au bout de ce Grand Prix, puisque on rappelle que les pilotes étaient partis en médium lors du premier départ. Il y a eu ce drapeau rouge, on a pu donc changer les pneumatiques dans les stands, on a monté les durs. Alors le challenge évidemment c'était d'arriver à faire 76 tours avec ces pneumatiques durs ou de changer de pneumatiques comme beaucoup l'ont fait. Bah apparemment Charles Leclerc qui a pu mener le rythme qu'il voulait hein, pendant la majorité de ce Grand Prix, puisqu'il était en tête et il a été un peu sous pression de Piastri à un moment, mais jamais en mesure véritablement de l'attaquer. Donc ça lui a permis de protéger ses pneumatiques. Alors derrière c'est beaucoup plus chaud hein, parce que Piastri a glissé à près de 9 secondes de retard sur Leclerc, mais Carlos Sainz évidemment lui met une pression maximale avec la Ferrari, et c'est le cas aussi de Lando Norris qui lui-même maintient la pression sur Carlos Sainz. Donc là on peut dire que c'est chaud bouillant, alors qu'on a vu Mbappé hein, qui est sur le bord du circuit. Il y a beaucoup de stars évidemment.
Ah bah
de
Monaco
niveau,
toujours.
Bah oui, c'est le glamour évidemment. Donc c'est pas joué pour le moment, surtout que les pilotes de tête doivent composer avec le dépassement des pilotes attardés à qui ils prennent un tour hein. Le premier qui est à un tour d'ailleurs c'est Yuki Tsunoda, le jeune pilote japonais Yuki Tsunoda qui est actuellement 8e de ce Grand
Prix. Jean-Luc, je te coupe deux secondes juste pour revenir te voir, mais balle de 7 pour Richard Gasquet, Eric et Flo.
Mais tu as raison, c'est peut-être pas une victoire. Balle de 7, oui. 6 points à 3 pour Richard Gasquet. C'est Čurić qui est au service, ça va faire 6-4. Parce que là, il est dans un fauteuil pour claquer la volée. Čurić, 6-4. Encore un service pour Borna Čurić. Donc, bon, Flo, bon, à rigueur, il peut le prendre ce point. Hein, mais derrière, ce sera Richard Gasquet à la mise en jeu. Donc, il a vraiment toutes les cartes en main. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il propose. Et puis, je pense que c'est. L'ambiance est tellement extraordinaire qu'il va. Il va tout donner, Richard. Il va bien sûr, évidemment.
C'est sûr, ça t'aide à te surpasser quand t'as ce cours, cette ambiance, dans ce contexte, le toit fermé. Ça t'aide à aller chercher un match. Il y a déjà une grosse bagarre sur cette première
manche. Allez, 6-4. Retour filé. Voilà, 6 points à 5. C'est l'instant de vérité pour Richard Gasquet. Allez, il est un petit peu nerveux là. Oui, il demande au ramasseur de vite lui donner la balle. Il a besoin de se concentrer. Donc c'est un point extrêmement important. 6 points à 5 pour le Français. Donc il va servir côté gauche sur Borna Čorić. Jusqu'alors, il a très très bien servi dans ce tie-break. S'il pouvait claquer un œil sur un service gagnant, eh bien on prendrait tout de suite évidemment. Le public du Lenglen, les 10 000 spectateurs du Lenglen retiennent leur souffle. Nous aussi, 1h03 à la pendule. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc c'est vraiment vital qu'ils prennent cette première manche.
Qui passe la première. C'est 18 points gagnés sur 21 quand il passe sa première rencontre. Ben voilà, c'est un super pourcentage.
On espère. Première balle filée. Malheureusement, évidemment, il suffit que j'en parle. Deuxième balle de service donc pour Richard Gasquet qui touche le revers de Čorić. L'échange s'installe. C'est pas mal ce qu'il fait. C'est bien, c'est bien. Voilà. Un 7-0 pour Richard Gasquet. C'est le scénario rêvé pour le Biterrois. Toute rage dehors. Un 7-0 pour Richie.
Ouais, c'est bien parti. Allez messieurs, on espère maintenant que physiquement ça va tenir le choc aussi après ce très très long premier set pour Richard Gasquet. Caroline Garcia sur le central est pour le moment menée 4-3 par l'Allemande Lys. Allez, le dernier tour, Jean-Luc, de ce Grand Prix de Monaco avec la victoire qui se dessine pour Charles Leclerc.
Eh oui, Flora, une victoire vraiment acquise de main de maître pour Charles Leclerc. Charles Leclerc, le poleman pour la troisième fois de sa carrière de pilote de Formule 1. Après les pôles signés en 2021, frappé par le sort, il n'avait même pas pris le départ du Grand Prix à la suite d'une casse mécanique dans le tour de formation. En 2022, il avait terminé quatrième. Et bien là, peut-être Charles en mesure d'inscrire une sixième victoire à son palmarès de pilote de Formule 1. La dernière, eh bien, c'était en Australie, au début de la saison 2022. Un carton plein donc pour le pilote monégasque sur cette aire qui aura dominé de main de maître vraiment ce Grand Prix de Monaco. Et on sait toute la difficulté que ça représente puisque les pilotes passent à quelques millimètres seulement des rails de sécurité. Il est acclamé, Charles, lors de son dernier passage au niveau de la chicane très rapide là de la piscine. On aborde maintenant le virage de Larascas pour la dernière fois, le restaurant à l'intérieur, et puis le virage Anthony Nogues. Une dernière accélération maintenant pour Charles Leclerc qui va décrocher une victoire historique là dans les rues de Monaco. C'est la première fois qu'un pilote monégasque dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 s'impose à Monaco. Et bien il l'a fait, Charles Leclerc vainqueur, et qui va évidemment faire une excellente opération au championnat du monde, au classement général provisoire du championnat du monde, à ses côtés sur le podium particulier de Monaco pour recevoir la coupe des mains du prince Albert. Et bien il y aura Oscar Piastri, il a été solide jusqu'au bout également, le jeune pilote australien de l'équipe McLaren, deuxième. Troisième, Carlos Sainz et Lando Norris est quatrième. Alors les trois hommes dans un mouchoir, hein, véritablement, en moins d'une seconde sur la ligne d'arrivée. Le cinquième, c'est George Russell avec la première les Mercedes. On trouve ensuite Verstappen, sixième à sa place de départ. Septième, Hamilton. Huitième, Yuki Tsunoda avec donc la première des RB. Et puis la Williams d'Albon est neuvième. Et le point de la dixième place pour Pierre Gasly qui le sauve jusqu'au bout. Le onzième, c'est Alonso. Et d'ailleurs, je dois être honnête, jusqu'au bout, hein, c'est la seule place qui a bougé. Les 10 premiers sont dans l'ordre de départ sur la grille. Alors c'est vrai qu'au plan des dépassements, on a été un peu frustré. Fernando Alonso lui est parvenu de remonter de la 14e à la 11e, favorisé évidemment par quelques éliminations et accidents dont nous avons parlé tout à l'heure.
Ouais, quel Grand Prix à rebondissement encore. Tu vois, mine de rien, il s'en est passé des choses aussi sur circuit si fermé parfois de Monaco. Première victoire donc pour Charles Leclerc cette saison, première victoire pour lui sur son circuit à Monaco. Il y aura beaucoup d'émotions évidemment pour lui, pour le pilote Ferrari. Merci beaucoup Jean-Luc de nous avoir fait vivre ce Grand Prix plein d'émotions. 17h28, bientôt 29 sur RMC. L'Intégral Sport revient dans quelques instants. On sera évidemment à Roland-Garros avec Richard Gasquet qui a remporté le premier set face à Borna Čorić. Caroline Garcia est toujours sur le court, 4 partout sur le Philippe Châtrier dans la première manche. On sera évidemment partout pour tous les résultats à la suite du Giro, aussi pour l'arrivée aujourd'hui à Rome. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Flora Moussi.
17h33 sur RMC. On est de retour dans l'Intégral Sport. Si vous nous rejoignez, sachez que Charles Leclerc vient de remporter le Grand Prix de Monaco pour la première fois de sa carrière. Il s'impose sur cette terre devant Oscar Piastri et son coéquipier chez Ferrari, Carlos Sainz. En ce moment, on suit évidemment Roland Garros. C'est le premier tour, la première journée avec Eric Salio, avec Flo Serin qui sont déjà chauds, avec Richard Gasquet qui vous a déjà enflammé, messieurs, dans ce premier set.
Mais on est obligé de s'enflammer pour Richard Gasquet. Tu sais,
vous n'êtes pas les seuls, hein, d'ailleurs. Tout Suzanne Lenglen est derrière lui. Hein.
C'est son 21e Roland. Il égale le record de Feliciano Lopez. Il n'y a pas un mec qui a disputé plus de Roland-Garros que Richard Gasquet. C'est quand même dingue. Et il est toujours là, toujours vivant, toujours passionné. Et c'est vrai que la manière dont il a pris le premier, bah c'est juste génial parce que On en parlait avec Flo, il doit savoir qu'il n'a pas beaucoup d'essence dans le moteur. Mais voilà, il a un set d'avant, donc il peut un peu gérer la situation.
Et pour l'instant, il arrive à changer pas mal l'Eric, c'est ce qu'on regardait aussi. Même en début de cette seconde manche, hein, il fait encore l'effort d'aller défendre en slice, de jouer des balles un petit peu plus hautes, de jouer plus tendu. Et bah, les échanges s'engagent. Il est obligé de couvrir tout le terrain.
Oh, mon Dieu, mon Dieu, c'est dommage.
Que ça prenne la bande.
C'était un point extraordinaire. Dans sa construction, malheureusement, il a sur un coup droit, il prend la bande et la bande est extrêmement tendue à Roland-Garros, donc la balle est sortie hors des limites. Mais c'est dommage, c'était un point fabuleux.
Ouais, c'est pour ça que vous voyez, dès on se dit à un moment donné, forcément, il va devoir gérer les moments aussi, parce que jouer 4 heures comme ça, ça va être forcément très éprouvant encore.
Attends, Flo, je te coupe pas le 32-7 pour Evalis sur le central. Ça, c'est
face à Caroline Garcia.
Face à Caroline Garcia, 5-4 pour la jeune allemande qui sort des qualifs, hein, je le rappelle, et 30-40. Sur la mise en jeu de la Lyonnaise, on va suivre ce point parce que ça peut être le début d'une petite catastrophe pour elle a de la chance, Caroline Garcia. Le retour de l'Allemande prend la bande et sort. Donc 5-4-40, balle de 7 sauvée.
Ça va être dur pour Caroline Garcia. Je voulais parler des enjeux de ce Roland-Garros avec vous, messieurs. Mais puisqu'on est avec Caroline Garcia, on va rester un petit peu avec elle, parce que c'est vrai qu'elle arrive un petit peu sur la pointe des pieds quand même dans ce Roland, avec des résultats peu probants ces derniers temps. Pas en confiance en tout cas.
Ouais, on peut pas dire qu'elle est brillée et remporté beaucoup de matchs sur les deux plus gros tournois, à savoir Madrid et puis Rome. À Rome, elle est tombée sur une fille qui était beaucoup plus forte qu'elle, et c'est Danielle Collins, et on sait que Collins, elle éclate tout le monde quasiment. Donc elle a reconnu que voilà, l'américaine est au-dessus d'elle. Mais bon, quand vous êtes tête de série, effectivement, normalement le parcours il est balisé. Je rappelle qu'elle était des séries 21, donc elle a Evalis au premier tour. Ensuite, c'est la gagnante de Kenin Sigemund. C'est pas, enfin, Kenin a fait finale à Roland, quand vous voyez.
Non, Ostapenko un peu plus haut.
Et Ostapenko évidemment au troisième tour. On attend d'elle qu'elle soit au moins en troisième. Voilà. Mmh. Après, tout peut arriver, mais c'est vrai que Ostapenko, bah, c'est une ancienne gagnante ici, donc c'est très dangereux.
On remarque qu'on aura des coups gagnants, et des fautes directes d'un côté comme de l'autre.
Ça va être un match de dur ou de gazon.
Mais bon, déjà, il faut se sortir de ce premier tour qui est pas évident face à une joueuse qui a eu des matchs dans les jambes et donc qualifiée. Et il va falloir s'en sortir. Et c'est pas évident parce que c'est vrai que Caroline joue son tennis, c'est-à-dire qu'il y a des coups gagnants super spectaculaires, mais aussi pas mal de fautes directes, et face à une joueuse qui fait son possible pour lui faire jouer le coup supplémentaire et, ouais, et la pousser à la faute comme ici, et elle va obtenir une deuxième balle de 7 Evalis.
On va la suivre évidemment avec vous, messieurs, parce que ça pourrait compliquer la suite des affaires de Caroline Garcia.
Ouais. Même si moi je l'ai dit, hein, j'aimerais avoir ton avis aussi, la tenue est magnifique, je trouve. Hein. L'orange et le vert, ça se marie vraiment très très bien.
C'est de circonstance.
Oui, mais
c'est
bon,
les couleurs de Roland normalement, orange, exactement, vert. Alors il est un peu plus kaki peut-être, mais
on va pas citer la marque, mais je dis chapeau à ceux qui ont confectionné cette tenue. Donc balle de 7 pour Evalis, première balle. Ouh là là, milieu du filet. Bat, c'est sévère quand même. Hein. Milieu du filet. Donc attention, elle va se faire agresser, Caro, parce que c'est une fille en face qui est sans complexe. Flo l'a dit, elle a gagné 3 matchs en qualif. Ça sort, c'est, la menace est repoussée. Donc toujours 5-4. Et 40 ans, et balle de break pour Richard Gasquet. Il est en train de prendre l'ascendant sur son adversaire, Borna Čurić. On va peut-être suivre cette balle de break. On est à 7-6, 1 partout.
Il est en feu.
Ah, mais il est bien, ça je le savais.
Il est bien, il n'est pas rôti pour l'instant.
Et non, mais sous les yeux de sa compagne Clémentine, qui resplendit dans la tribune des joueurs. Allez, Richard, ce serait bien de prendre un bel ascendant sur Borna Čurić, qui n'est pas dans la forme de sa vie, on l'avait dit dans les paris RMC. Elle est faute dans les bonnes. Il prend la ligne, le Croate. Ah, c'est dingue. Coup droit décroisé qui prend la ligne. Richard qui va aller vérifier la trace et qui va l'effacer par dépit. Ouais, elle touche la ligne. Donc 30-40. Encore une balle de break à venir pour le Biterrois, qui, je rappelle, a un set d'avance hein, face à Čurić. On en parlait avec Flo. Čurić, c'est quand même un gars qui avait gagné un Masters 1000 à la surprise générale. Mais depuis, on n'a pas vu grand-chose hein, de la part du Croate.
Non, mais c'est vrai que bon, il est arrivé aussi très tôt sur le circuit et comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup d'ambition, il avait annoncé clairement ses objectifs avec un petit peu d'arrogance, ça n'avait pas été forcément bien ressenti par les autres. Et puis oui, il a été assez irrégulier, touché par des blessures également, Eric, pas mal dans sa carrière qui l'ont ralenti pour le moment.
Oui, c'est vrai, je me souviens, il avait battu Nadal à Bâle. Ouais, il avait beaucoup de c'était une sorte de coupeur de tête. Et c'est un garçon qui a pas mal été blessé. D'ailleurs, on le voit, il joue avec un gros strap au niveau du cou, de l'avant-bras. Ça doit le handicaper. Et donc là, il a sauvé la deuxième balle de break, hein, Flora. Donc c'est pour ça qu'on s'est pas excité. Mais il y a vraiment un coup à jouer cet après-midi sur le magnifique toit qui est une sorte de robe plissée, hein, pour faire allusion à Suzanne Lenglen. C'est vraiment l'architecte a fait de l'excellent boulot et je le répète, il y a une acoustique absolument extraordinaire. Ça doit te donner des ailes, ce genre d'ambiance, forcément.
Non, mais c'est sympa, on est devant son public. Je re-regardais, il avait quand même un quart de finale à Rome l'année dernière, en Masters 1000 aussi, Bonaturic, et la demi-finale à Madrid aussi. Donc il a enchaîné quelques bons résultats dans les gros tournois.
Il est assez irrégulier.
Ouais. C'est pour ça que si Richard pouvait arriver à le breaker dans cette seconde manche, il pourrait aussi le faire douter et aidé par le public, ça pourrait le faire dégoupiller, comme on dit.
Un long rallye, peut-être qu'il va déboucher sur une nouvelle balle de break. Richard me semble en contrôle dans l'échange, mais enfin, maintenant il faut conclure, il faut porter l'estocade. Elle est belle cette balle de Čurić, un coup de défense qui vient mourir à quelques centimètres, mais cette fois-ci ça sort. Balle de break à venir, une nouvelle. Il est en train de l'épuiser, c'est ça qui est rassurant quelque part, alors qu'il y a quand même une grosse différence d'âge, et ce qui prouve que Čurić n'est pas dans la forme de sa vie. Il faut vraiment enfoncer le clou.
Et pour l'instant, justement, Čurić, qui peut être de temps en temps, surtout côté revers, assez puissant et prendre tôt, je trouve que ses coups ne partent pas forcément très bien de sa raquette. Et ça, c'est bien parce que ça laisse du temps à Richard et ça lui permet de défendre dans de bonnes conditions et surtout de le faire jouer, de trouver de l'angle.
On va pas s'en plaindre, Flo. On va pas s'en plaindre. Allez, nouvelle balle au break. La troisième dans ce troisième jeu du deuxième set.
Et nouvelle balle de 7 contre Caroline Garcia.
On va avoir des yeux partout, Flora, t'inquiète pas. Richard qui est en difficulté là dans l'échange, il va se faire balader. Non, Čurić qui n'arrive pas. Mais non, t'as raison, Flo. Il n'ose pas, il n'arrive pas à placer l'accélération fatale. Et Richard qui défend remarquablement. C'est un peu court, je trouve. C'est un peu court. Là, il va galérer, là, il va se faire prendre. Là, c'est pas possible. Il s'en sort pas. Là. Si, ça rentre. Smash à venir.
Le smash est parfait. Tous les coins du terrain ont été
égalité
touchés.
Balle de 7, on va faire le multiplex, balle de 7, la troisième, je crois.
Et à nouveau sur une deuxième balle.
Elle est longue, la deuxième. Attention, le retour est très agressif. Evalis qui a un pénalty, c'est fait. Un 7-0 pour l'Allemande. Aïe, 6-4.
Ouais, ça se complique déjà d'entrée pour Caroline Garcia. C'est loin d'être fini, évidemment, messieurs. Mais avant de voir si Richard Gasquet va réussir à conclure ce break, j'aimerais quand même parler avec vous, messieurs, de l'homme dont tout le monde parle cette saison à Roland-Garros, enfin comme tous les ans, mais encore plus peut-être cette année-là, parce que ça pourrait être son dernier, pourquoi pas. Raphaël Nadal, évidemment, messieurs, il l'a déclaré hier, il n'est pas sûr à 100% que ce soit son dernier, et on le retrouvera demain, hein, pour son premier tour tant attendu.
Oui, demain, dans l'après-midi, en troisième rotation, après deux matchs féminins. Donc, faites vos calculs. Comme il y a Swiatek, ça peut aller vite. Donc, si vous avez des places pour la session de l'après-midi de Roland, quand même, ne traînez pas, parce que ça peut débuter vers 16h, peut-être. Hein. Non, mais c'est un match que tout le monde attend. Flo, le tirage au sort de jeudi a été... je sais pas, le terme est dur, mais cruel. Enfin, en tout cas, ça. Moi, j'ai encore en tête les hauts dans la salle de conférence, dans l'orangerie lors du tirage au sort. Les gens étaient éberlués parce que ça s'est fait en deux temps. Faut resituer. Dans un premier temps, donc l'ordinateur a placé Nadal sur la ligne 34. Donc, on savait qu'il jouerait soit la tête de série 3, soit la tête de série 4. Et c'est Marie-Josée Pérec qui a plongé sa main dans la coupe et qui a sorti le jeton 4, et là il y a eu c'était un coup de théâtre, quoi. Nadal Zverev, c'est insensé comme tirage, et
pour un premier tour, oui, c'est fou.
C'est fou. Dans quel état il est, Rafa? On ne sait pas trop.
Si ça avait été Alcaraz.
T'imagines le derby espagnol.
Mais l'état de forme de Rafael Nadal, tu en as en parlé, Eric, c'est vrai que c'est une vraie question quand même. On peut se poser la question de savoir comment il se sent.
Alors, il est arrivé dès lundi à Paris, hein, ce qui est rarissime. J'ai suivi un peu ses entraînements. Ça monte vraiment en puissance. D'ailleurs, lui-même le disait, et c'était pas du bluff, hein, c'était pas de la com. Il joue de mieux en mieux. Il se sent de mieux en mieux, surtout physiquement. Maintenant, Flo, est-ce que ça peut suffire contre un garçon comme Zverev il est peut-être pas au sommet de son art, mais il est pas loin du niveau qu'il avait lors de la fameuse demi-finale où malheureusement il avait dû abandonner après après s'être bloqué la cheville dans la terre battue face à Rafa. C'était une demi-finale de légende, mais je pense qu'il n'est pas loin de retrouver ce niveau-là.
Oui, je suis d'accord avec toi, Eric, surtout quand tu viens de remporter un Masters 1000. Alors certes, où tout le monde ne s'est pas aligné, parce que justement Sinner est blessé, Alcaraz n'était pas bien, il a su tirer son épingle du jeu en remportant ce tournoi de Rome qu'il avait déjà remporté d'ailleurs. Donc c'est, que ce soit Madrid, Rome, ce sont des tournois qu'il aime bien, une terre battue qu'il aime bien, et on sait le niveau de jeu qu'il avait pu avoir pendant presque 2-7 contre Rafael Nadal il y a 2 ans. Mais oui, il revient avec beaucoup de régularité, et surtout il a plus ses problèmes de service qu'il a pu avoir à un moment donné où il faisait beaucoup de doubles fautes et ça lui coûtait certains matchs. Là il sert particulièrement bien. Si on a des conditions de jeu aussi rapides, demain s'il fait chaud, on sait que son service, quoi qu'il arrive, il sera difficile à retourner pour Rafa Nadal. Et le paramètre aussi pour Rafa, c'est comment lui va servir, va pouvoir aussi se dépatouiller en ayant quelques points gratuits. En tout cas, comme disait Eric, moi ce qui me rassure un petit peu, c'est les sets d'entraînement qu'il a pu jouer aussi cette semaine. Il en a gagné contre Medvedev, donc il est en train de monter en puissance. Mais je me demande si ce duel arrive pas un petit peu trop tôt, malheureusement pour lui.
Ouais, effectivement, on aura le temps d'en parler évidemment tout au long de cette quinzaine et dès demain avec vous, messieurs. Un point score pour Richard Gasquet.
Donc 7-6 Gasquet et 2-1 Djokovic. Et sur le central, la deuxième manche va débuter. Je rappelle que Karine Garcia, malheureusement, est en retard d'un set face à cette jeune Allemande, Eva Lys, 6-4.
Allez, 17h45 sur AMC, l'Intégral Sport revient tout de suite. Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis, sera avec nous pour nous parler notamment du Tour de France à venir dans un mois maintenant. A tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Sport.
Coramoussi. 17h48, on est de retour sur AMC dans l'Intégral Sport. Merci d'être avec nous. On a vécu un Grand Prix de Monaco à rebondissement avec la victoire à l'arrivée de Charles Leclerc. On suit aussi Roland Garros avec Richard Gasquet qui mène 1-7-0. Deux partout dans la deuxième manche face à Borna Koric. Caroline Garcia est menée aussi 1-7-0 pour son entrée en lice. 1-0 dans la deuxième manche pour l'Allemande Lys. On suit aussi évidemment la dernière étape du Giro. Forcément l'occasion de faire un bilan aussi de ce Tour d'Italie ultra dominé par Tadej Pogacar en vue du Tour de France, on vous le rappelle évidemment, qui débutera le 29 juin prochain de Florence en Italie. Justement, on suit tout ça avec toi, Johan, avant d'accueillir notre invité du jour, Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis. Johan, on a vu sur ce Tour d'Italie un Tadej Pogacar impérial.
Ah, c'est le mot quand on parle de Rome. En plus, l'empereur Tadej Pogacar, 6 victoires d'étape, c'est autant qu'Eddy Merckx en 1973, et surtout presque 10 minutes d'avance sur le deuxième Tadej Pogacar, qui n'a rien laissé, qui a choisi les courses où il devait gagner, les étapes où il devait gagner, et il s'est imposé à maintes reprises avec une domination. Voilà, il était dans une autre cour, il jouait dans une autre cour, Tadej Pogacar. Juste les mots de Geraint Thomas, qui en a connu, lui, le vétéran, 37 ans, le gallois, qu'on a connu des bons coureurs, je pense à Alberto Contador notamment, ou des Chris Froome, et il est impressionné par ce qu'a montré le Slovène sur ce Tour d'Italie. Voilà, il a rien laissé, et Pogacar, et voilà, il adore gagner, il adore faire le spectacle, et c'est pas pour rien qu'il termine avec autant d'avance, avec le sourire en plus. Il est adoré par le public, Tadej Pogacar. Voilà, il s'est fait plaisir et il a dit c'est une préparation, notamment l'étape d'hier qu'il a surdominé, c'est une préparation en vue du Tour de France, et pourquoi pas réaliser le doublé qui n'a plus été réalisé depuis 98 et un certain Marco Pantani.
Ouais, et il y aura un homme qui sera aux premières loges de ce Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France. C'est Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis, qui est notre invité aujourd'hui dans l'Intégral Sport. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. J'imagine que vous suivez aussi de loin au moins ce Tour d'Italie. Est-ce que vous êtes impressionné aussi par cette démonstration de Tadej Pogacar?
Oui, je suis de pas si loin, parce que là je suis actuellement en stage avec mon équipe à Tignes, donc pas loin de la frontière italienne. On roule forcément beaucoup, mais après nos journées d'entraînement, on arrive souvent pour voir les dernières étapes du Giro, et Pogacar est souvent déjà seul en tête quand on allume la télé. Donc oui, évidemment, ce qu'il a réalisé, c'est impressionnant, mais c'est dans la droite ligne de ce qu'il réalise depuis le début de saison, depuis quelques années maintenant. Après, voilà, je me rends pas compte ce que ça donne un peu pour le spectacle, pour le grand public, de voir un coureur aussi dominateur gagner avec 10 minutes d'avance. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il n'y avait pas match sur ces 3 semaines.
Ouais, parlons un peu de vous maintenant, Guillaume. J'ai déjà envie de vous demander comment vous vous sentez après cette saison qui avait mal débuté avec ce Covid qui vous a un petit peu stoppé. Vous êtes bien reparti ensuite. Comment vous vous sentez là actuellement?
Eh ben, Ça va beaucoup mieux qu'en février-mars où effectivement j'ai subi, comme l'année passée, les conséquences un peu à long terme d'un Covid. À partir de fin mars, le mois d'avril, ça allait beaucoup mieux. J'ai pu faire quelques bons résultats. Et puis voilà, le mois de mai a été sans compétition et vraiment axé sur la préparation en altitude pour le Tour. Avant ça, pour le Dauphiné libéré qui arrivera très très vite dans une semaine. Ma saison va être assez longue puisque j'ai aussi le Tour d'Espagne à mon programme. J'ai en tête éventuellement le championnat du monde aussi en septembre sur un parcours difficile. Donc voilà, il y a largement encore de quoi rattraper ce début de saison un peu compliqué.
Programme chargé, effectivement. Il y aura évidemment aussi le Tour de France. Vous étiez 10e l'année dernière, 8e en 2021. Quelles vont être vos ambitions cette année? Aller chercher une étape aussi peut-être?
Mon équipe Cofidis a réalisé un super tour l'an dernier avec ma 10e place, avec beaucoup de places d'honneur et puis deux victoires d'étape. Pour être honnête, je ne sais pas encore aujourd'hui dans quelle optique je vais aborder le tour cette année. Ça va dépendre un peu de dans quelles conditions je l'aborderai, de comment se passent les premières étapes, dont on sait qu'elles sont toujours super piégeuses et dangereuses. Et donc, voilà, je pense que je ferai le point au bout de quelques étapes. Et voilà, j'ai envie de me laisser un peu de liberté et puis certainement, en tout cas, faire un tour offensif. C'est en tout cas comme ça que je prends du plaisir sur le vélo.
L'un des événements aussi à venir pour vous, forcément, en cette année olympique, c'est que vous allez porter la flamme sur vos terres en Normandie dans les prochains jours. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quel rapport vous avez avec les Jeux olympiques?
Ça va venir très vite, effectivement. Ce sera vendredi prochain au Mont-Saint-Michel.
Belle image, hein.
Voilà. En tant que sportif, c'est une fierté en tant que personne d'avoir été choisi par ma fédération. Et puis, voilà, pour ce symbole qui est la flamme, qui est un symbole de pour moi en tout cas du pouvoir pacificateur du sport. C'est ça, enfin c'est la valeur que j'y attache. Les gens peuvent voir des choses différentes dans cette flamme, mais en tout cas moi je m'attache vraiment à cette valeur là et puis voilà, reconnaissance aussi peut-être une satisfaction un peu plus personnelle de mon parcours, de ma carrière, de mon parcours de sportif qui n'est pas terminé.
Non, évidemment. Eh bien, on sera en rendez-vous avec vous. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous dans l'Intégral Sport. Et puis, bonne chance pour la suite de la saison. On vous revoit très vite, notamment sur les routes du Tour de France et puis évidemment au Championnat de France aussi qui seront sur vos terres en Normandie. Merci beaucoup, Guillaume.
Je vous remercie.
Allez, un détour par Roland Garros. Un point score avec vous, Eric et Flo, sur Richard Gasquet.
1-7-0 donc pour Richard Gasquet, 7-6 face à Borna Cioric. On est au milieu du deuxième set, il y a 3-2 pour le Croate. Pas de panique, c'est le Français qui est au service, il mène 30-0. C'est beaucoup moins réjouissant sur le central puisque la jeune Allemande Evalis, sortie des qualifs, mène 6-4-2-1 face à Caroline Garcia.
Ouais, on a de quoi être inquiet quand même dans ce début de match pour Caroline Garcia. Ça peut défiler. 17h55 sur RMC. On revient dans quelques instants pour la suite de l'Intégral Sport. Coach Courbis arrive avec Marion Adalou. On va parler foot évidemment dans quelques instants, notamment revenir sur la finale de la Coupe de France remportée hier par le PSG. Et puis on sera à Toulouse aussi parce qu'il y a les célébrations du titre de champion d'Europe, la Champions Cup remportée hier par le Stade Toulousain. On sera au rendez-vous place du Capitole. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Scoramouci. 17h48, on est de retour sur AMC dans l'Intégral Sport. Merci d'être avec nous. On a vécu un Grand Prix de Monaco à rebondissement avec la victoire à l'arrivée de Charles Leclerc. On suit aussi Roland Garros avec Richard Gasquet qui mène 1-7-0. Deux partout dans la deuxième manche face à Borna Cioric. Caroline Garcia est menée aussi 1-7-0 pour son entrée en lice. 1-0 dans la deuxième manche pour l'Allemande lice. On suit aussi évidemment la dernière étape du Giro. Forcément l'occasion de faire un bilan aussi de ce Tour d'Italie ultra dominé par Tadej Pogacar en vue du Tour de France, on vous le rappelle évidemment, qui débutera le 29 juin prochain de Florence en Italie. Justement, on suit tout ça avec toi Johan avant d'accueillir notre invité du jour Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis. Johan, on a vu sur ce Tour d'Italie un Tadej Pogacar impériale.
Ah, c'est le mot. C'est le mot quand on parle de Rome. En plus, l'empereur Tadej Pogacar, 6 victoires d'étape. C'est autant qu'Eddy Merckx en 1973. Et surtout, presque 10 minutes d'avance sur le deuxième Tadej Pogacar, qui n'a rien laissé, qui a choisi les courses où il devait gagner, les étapes où il devait gagner. Et il s'est imposé à maintes reprises avec une domination. Voilà, il était dans une autre cour, il jouait dans une autre cour. Tadej Pogacar, juste les mots de Geraint Thomas, qui en a connu, lui, le vétéran, 37 ans, le Gallois, qu'on a connu des bons coureurs. Je pense à Alberto Contador, notamment, ou des Chris Froome. Et il est impressionné par ce qu'a montré le Slovène sur ce Tour d'Italie. Voilà, il a rien laissé. Et Pogacar, voilà, il adore gagner, il adore faire le spectacle. Et c'est pas pour rien qu'il termine avec autant d'avance, avec le sourire en plus. Il est adoré par le public, Tadej Pogacar. Voilà, il s'est fait plaisir. Et il a dit, c'est une préparation, notamment l'étape d'hier qu'il a surdominé. C'est une préparation en vue du Tour de France. Et pourquoi pas réaliser le doublé qui n'a plus été réalisé depuis 98 et un certain Marco Pantani.
Ouais, et il y aura un homme qui sera aux premières loges de ce Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France. C'est Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis, qui est notre invité aujourd'hui dans l'Intégral Sport. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. J'imagine que vous suivez aussi de loin au moins ce Tour d'Italie. Est-ce que vous êtes impressionné aussi par cette démonstration de Tadej Pogacar ?
Oui, je suis de pas si loin, parce que là, je suis actuellement en stage avec mon équipe à Tignes, donc pas loin de la frontière italienne. Mmh. On roule forcément beaucoup, mais après nos journées d'entraînement, on arrive souvent pour voir les dernières étapes du Giro, et Pogacar est souvent déjà seul en tête quand on allume la télé. Donc oui, évidemment, ce qu'il a réalisé, c'est impressionnant, mais c'est dans la droite ligne de ce qu'il réalise depuis le début de saison, depuis quelques années maintenant. Après, voilà, je me rends pas compte ce que ça donne un peu pour le spectacle, pour le grand public, de voir un coureur aussi dominateur gagner avec 10 minutes d'avance. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il n'y avait pas match sur ces 3 semaines.
Ouais, parlons un peu de vous maintenant, Guillaume. J'ai déjà envie de vous demander comment vous vous sentez après cette saison qui avait mal débuté avec ce Covid qui vous a un petit peu stoppé. Vous êtes bien reparti ensuite. Comment vous vous sentez là actuellement ?
Eh ben, ça va beaucoup mieux qu'en février-mars où effectivement j'ai subi, comme l'année passée, les conséquences un peu à long terme d'un Covid. À partir de fin mars, le mois d'avril, ça allait beaucoup mieux. J'ai pu faire quelques bons résultats. Et puis voilà, le mois de mai là, était sans compétition et vraiment axé sur la préparation en altitude pour le Tour. Avant ça, pour le Dauphiné libéré qui arrivera très très vite dans une semaine. Mmh. Ma saison va être assez longue puisque j'ai aussi le Tour d'Espagne à mon programme. J'ai en tête éventuellement le championnat du monde aussi en septembre sur un parcours difficile. Donc voilà, il y a largement encore de quoi rattraper ce début de saison un peu compliqué.
Programme chargé, effectivement. Il y aura évidemment aussi le Tour de France. Vous étiez 10e l'année dernière, 8e en 2021. Quelles vont être vos ambitions cette année ? Aller chercher une étape aussi peut-être ?
Mon équipe Cofidis a réalisé un super tour l'an dernier avec ma 10e place, avec beaucoup de places d'honneur et puis surtout deux victoires d'étape. Pour être honnête, je sais pas encore aujourd'hui dans quelle optique je vais aborder le tour cette année. Ça va dépendre un peu de dans quelles conditions je l'aborderai, de comment se passent les premières étapes dont on sait qu'elles sont toujours super piégeuse et dangereuse, et donc voilà, je pense que je ferai le point au bout de quelques étapes et voilà, j'ai envie de me laisser un peu de liberté et puis certainement en tout cas faire un tour offensif, c'est en tout cas comme ça que je prends du plaisir sur le vélo.
L'un des événements aussi à venir pour vous, forcément, en cette année olympique, c'est que vous allez porter la flamme sur vos terres en Normandie dans les prochains jours. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quel rapport vous avez avec les Jeux olympiques ?
Ça va venir très vite, effectivement. Ce sera vendredi prochain au Mont-Saint-Michel.
Belle image, hein ?
C'est voilà. En tant que sportif, c'est une fierté. En tant que personne, d'avoir été choisi par ma fédération et puis... Voilà pour ce symbole qui est la flamme, qui est un symbole de pour moi en tout cas du pouvoir pacificateur du sport. C'est ça, enfin c'est la valeur que j'y attache. Les gens peuvent voir des choses différentes dans cette par cette flamme. Mais en tout cas, moi, je m'attache vraiment à cette valeur-là. Et puis, voilà, reconnaissance aussi, peut-être, pour une satisfaction un peu plus personnelle de mon parcours, de ma carrière, de mon parcours de sportif qui n'est pas terminé.
Non, évidemment. Eh bien, on sera en rendez-vous avec vous. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous dans l'Intégral Sport. Et puis, bonne chance pour la suite de la saison. On vous revoit très vite, notamment sur les routes du Tour de France. Et puis, évidemment, au Championnat de France aussi, qui seront sur vos terres en Normandie. Merci beaucoup, Guillaume.
Je vous remercie.
Allez, un détour par Roland Garros. Un point score avec vous, Eric et Flo, sur Richard Gasquet.
1-7-0 donc pour Richard Gasquet, 7-6 face à Borna Cioric. On est au milieu du deuxième set. Il y a 3-2 pour le Croate. Pas de panique, c'est le Français qui est au service. Il mène 30-0. C'est beaucoup moins réjouissant sur le central puisque la jeune Allemande Evalis, sortie des qualifs, mène 6-4-2-1 face à Caroline Garcia.
Ouais, on a de quoi être inquiet quand même dans ce début de match pour Caroline Garcia. Ça peut défiler. 17h55 sur RMC. On revient dans quelques instants pour la suite de l'Intégral Sport. Coach Courbis arrive avec Marion Adalo. On va parler foot évidemment dans quelques instants, notamment revenir sur la finale de la Coupe de France remportée hier par le PSG. Et puis on sera à Toulouse aussi parce qu'il y a les célébrations du titre de champion d'Europe, la Champions Cup remportée hier par le Stade Toulousain. On sera au rendez-vous place du Capitole. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
Salut à tous, merci de nous rejoindre sur RMC. Il est 18h tout pile, c'est la suite de l'Intégral Sport. On vous accompagne jusqu'à 19h. Après, c'est votre rendez-vous Bartoli Time avec Jean-Christophe Drouet, avec Sarah Pitkowski et un invité, Raphaël Nadal. Rien que ça, parce que vous le savez, Roland Garros a débuté aujourd'hui. Avant d'aller prendre des nouvelles de Richard Gasquet, je vais saluer l'équipe qui m'a rejoint en plateau. Marion Hédalo, coach Courbis. Salut à tous les deux.
Salut Flora.
Salut les amis.
Vous m'avez abandonné la première heure. Maintenant, je vous retrouve. On va parler foot avec vous, évidemment, dans quelques instants. Jeannot Rességuier aussi est avec nous. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Et parce qu'il y a eu une petite finale de Coupe de France hier soir avec la victoire du PSG face à Lyon. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, on va place du Capitole à Toulouse. Les célébrations du titre en Champions Cup hier des Toulousains. Vous entendez Wilfried Templier qui rigole. Salut Wilfried.
J'entends Jeannot surtout.
Tu es sur les terres de Jeannot.
Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, eh bien, vous arrivez parfaitement bien. Salut coach. Puisque je suis moi au balcon du Capitole face à une foule de plusieurs milliers de personnes. Ils étaient 15 milliards, peut-être 112 000 aujourd'hui, surtout face à moi, la coupe Antoine Dupont, casquette vissée sur la tête, lunettes de soleil pour beaucoup parce que la nuit n'a pas dû s'arrêter. En fait, ils sont arrivés dans la nuit à l'aéroport, ils étaient reçus par les supporters et là ils viennent d'arriver avec le bus. Antoine Dupont et la coupe, ils sont tous là. Cyril Bay, lunettes de soleil, Anthony Gelon, j'ai même les blessés, Paul Coste, le président Didier Lacroix qui est descendu du bus en premier, accueilli par le maire de Toulouse Jean-Luc Moudin, qui est là évidemment face à moi. Une forêt de drapeaux rouges et noirs qui a vibré hier et qui revibre aujourd'hui. Mais Jeannot, tu sais que j'ai l'impression que les mois de mai et juin ici se répètent année après année.
Mais oui, les photos sont venues s'intercaler la saison dernière plus, avec la Coupe de France.
En plus, donc. Mais ils étaient déjà là, eux, avec le bouclier de Brennus au mois de juin l'année dernière. Les revoici avec une sixième Coupe d'Europe, 3 ans après la dernière. Et là, Antoine Dupont en train de faire le tour, d'aller le montrer, faire toucher la Coupe aux supporters, suivi par une nuée de photographes, de caméramans. Voilà, on va faire toucher la Coupe. On la laisse un peu aux supporters, ils se la passent un petit peu. Cette superbe Coupe d'Europe à l'issue d'un match fou hier, au bout des prolongations, un match incroyable de suspense, 31-22 face au Leinster qui perd une troisième finale de suite.
Les Irlandais n'ont pas aimé les clubs français, les Irlandais. Hein.
Ah non, et puis on peut rajouter une quatrième en 2019. C'était pas face à des clubs français, mais ils en ont perdu une en 2019 aussi. Hein. Ouais. Donc ça fait 4 de suite pour eux. Voilà, la fête continue ici à Toulouse. Je sais pas combien de temps elle va durer. Ils ont gratté jusqu'à mercredi pour l'entraînement. En repos, les Toulousains, ils reçoivent La Rochelle dimanche prochain au Stadium de Toulouse. Pour l'instant, vu les mines que je vois, c'est marrant, ils ont tous les lunettes de soleil. Hein.
Bah, ils ont tous les lunettes de soleil. Je suis sûr que t'as les tiennes aussi, Wilfried, non ?
Pas du tout. Frais comme un gardon. Attends.
Quand tu vois les images dans le vestiaire d'hier soir, tu te dis qu'effectivement, la nuit est bien courte. Hein.
On les comprend.
Il nous disait hier, il faut que le staff et le staff le sait, nous laissent décompresser un moment dans ces années.
Mais la saison n'est pas finie aussi pour le Stade Toulousain, il faut aussi le rappeler.
Parce qu'ils sont encore qualifiés pour les demi-finales directement, c'est fait ça. Du top 14, donc ils vont briguer un bouclier de Brennus et je pense que beaucoup de monde s'inquiète, là, ils sont en train de danser. Écoutez, avec la foule, là, il y a Mea Fou qui va beaucoup mieux, là, qui avait mal au mollet à la cuisse. Il est en train de sauter les bras en l'air. Jérôme Keino, l'autre membre du staff aussi. Voilà, c'est la fête à Toulouse. Donc, ils vont passer, pour Jeannot, il connaît l'endroit. Ils vont rentrer dans le Capitole, aller salle des illustres et venir au balcon. On est juste balcon à côté. Vous verrez peut-être sur les images, on fera coucou.
C'est quand le prochain match de championnat?
Et on attend qu'il représente, voilà, qu'il ressoulève cette coupe ici. Voilà, c'est ambiance de fête. Et il faisait un peu gris, le soleil est arrivé. C'est inondé de soleil maintenant. Place du Capitole.
Coach, te demandais quand est-ce qu'était le prochain match, parce que tu sais, il est déjà dans l'anticipation, coach.
Dimanche
pas
prochain.
La fête.
Dimanche prochain, au Stadium, ça tombe bien. En plus, match un peu délocalisé, coach. C'est pas Ernest Vallon, c'est au Stadium devant 33 000 personnes. Ça tombe bien. Contre. C'est face à La Rochelle. Oh. Ceux qui avaient la coupe avant, ils vont pouvoir poser la coupe sur le bord du terrain, dire.
Voilà.
Maintenant, elle est à nous. Et c'est vrai que c'est un match très important. Ils sont déjà qualifiés, mais ils peuvent faire mal à La Rochelle qui est pas sûr encore
aller.
D'être dans les 6.
Ben oui, effectivement.
Donc voilà, ce sera une mission pour eux. Dans quel état on verra? Parce qu'il y a eu de la casse hier. Beaucoup de casse, des blessés. Aki, Arnold, carton rouge, Meafou, blessé, Marchand. Voilà, faudra voir un peu dans quel état.
Le carton rouge, il marche dans le championnat?
Ah, ce sera des semaines de suspension, coach, en fait. Donc, ah ouais, ça marchera aussi dans le championnat.
Ouais, d'accord.
Mais là, et lui, il s'embête pas. Richie Arnold, là, il est en train de danser, là. Donc, on voit avec les doigts, comme ça, là, les mains en l'air. Il y pense plus trop à son carton rouge, là.
Bon, donc, mets-toi à la fête, Wilfried. Et puis, évidemment, essaye de bosser un petit peu quand même. Donc, si tu peux nous avoir quelques petites interviews de réaction de joueurs, là, qui font la fête, ce sera avec plaisir. Tu nous dis, tu nous fais signe,
essaye
on est avec toi.
Essaye de bosser un petit peu quand même, tu viens de me dire.
Oui.
Hein?
Oui.
Je vais essayer de suivre ton conseil, madame.
C'est dit affectueusement. Tu sais bien. Et bon, on attend.
Je prends la consigne à cœur. Merci.
Si t'as des réactions, t'es là, le micro est ouvert. T'hésite pas à nous dire et on sera avec toi, évidemment. Merci.
Allez, à tout à l'heure.
Merci, Wilfried. On est avec Jeannot, coach Marion. On va parler foot un petit peu. On a toujours un œil à Roland Garros. Hein. Sachez que Richard Gasquet a remporté la première manche 7-6 face à Borna Koric et que c'est très serré encore dans la deuxième manche. Il y avait 3 partout tout à l'heure. Caroline Garcia est menée 1-7-0, 3-2 dans la deuxième manche. Ça sent pas bon pour Caroline Garcia. On ira voir nos envoyés spéciaux sur place dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler de cette finale de la Coupe de France hier qui marquait la fin de la saison de foot en France avec la victoire 2-1 du PSG face à Lyon. On va revenir longuement sur cette finale, sur la saison des deux équipes et sur Kylian Mbappé, évidemment, qui faisait ses adieux définitifs au PSG. On va parler sportif. Voilà, j'ai pas envie de parler forcément débordement après ce qui s'est passé hier. On va parler sportif. Une victoire logique, Jeannot, du PSG, même si les Parisiens ont joué à se faire peur quand même, encore une fois, j'ai envie de dire, en fin de match.
Alors après, on a quand même insisté et à juste titre sur le fait qu'ils ont très certainement réalisé une, ou si ce n'est l'une des meilleures premières périodes de la saison avec Luis Enrique dans la maîtrise, dans la tactique, dans la façon d'aller bousculer cette équipe de Lyon et puis surtout dans le réalisme hein, avec ce but de Dembélé de la tête et puis le but de Ruiz sur la passe de Dembélé. Donc déjà à la mi-temps 2-0, bah, le Paris Saint-Germain avait quand même l'affaire en main. Après, sur les derniers rebondissements de Lyon, ces dernières rencontres de Ligue 1, capable et notamment à Lille d'aller renverser et de s'imposer 4-3, on était resté prudent, qui plus est avec le but d'O'Brien à la 55e minute, l'occasion de Tagliafico à la 64e qui aurait pu faire un 2 partout. Et là, on a retrouvé les travers du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire une équipe qui finalement est pas si solide et gaillarde défensivement et qui encaisse des buts. Parce que cette saison, je regardais, je comptabilisais.
Les clean sheets, il ne doit pas en avoir beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup, non, effectivement. Ça veut dire tout simplement que. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain, il y avait la volonté de reconquérir la Coupe de France. Ça, ils l'ont plutôt bien fait. Et ils sont tombés sur une équipe de Lyon qui s'est trop posée de questions en première période. D'ailleurs, Pierre Sage l'a dit lui-même, ils n'ont pas fait une première mi-temps digne d'une finale de Coupe de France, alors qu'ils avaient misé énormément sur cette rencontre, sur le fait que les 2-4-1 encaissés en championnat face à Paris avaient été oubliés, avaient servi dans la préparation de la finale pour dire « voilà ce qu'il ne faut pas faire ». Et malheureusement, ils n'ont pas été souvent en situation de marquer. Donc je pense que dans la logique des choses, Paris s'est imposé et Paris réalise quand même le doublé, le triplé avec le trophée des champions. Au-delà de l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions, ça reste quand même une saison correcte. Je sais que c'était le débat des grandes gueules ce matin.
C'est une vraie question, coach Marion, qu'on peut se poser parce que c'est vrai qu'on est toujours très exigeant avec le PSG, on est toujours très dur, on en attend beaucoup. Mais mine de rien, si on regarde là sur le papier, un doublé, championnat, Coupe de France, une demi-finale de Ligue des Champions. Je pense qu'ils auraient signé au début de la saison quand même.
Évidemment. Non, mais pour moi, c'est une très bonne saison du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas pour moi de discussion. Première saison de Luis Enrique. Alors effectivement, sur le fond, c'est parce que nous, on regarde les matchs tout le temps et qu'on sait très bien les défauts du Paris Saint-Germain. On les connaît par cœur. Donc effectivement, on est beaucoup plus critique. Mais si vous regardez de l'extérieur, si vous êtes journaliste même à l'étranger, vous regardez ou supporter à l'étranger et que vous regardez effectivement le palmarès de Paris cette saison, c'est tout à fait intéressant. Et encore une fois, moi je sais que Roland va pas être du tout d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Mais je trouve quand même que Enrique, c'est un travail effectivement qui a beaucoup de caractère, mais moi je trouve qu'il travaille avec une certaine modestie, une certaine humilité. On l'a vu, hein, il était derrière ses joueurs hier. Il ne prend pas la lumière comme Mourinho pourrait le faire, et moi je trouve c'est une saison plutôt agréable. Absolument,
coach.
Mais c'est sûr qu'elle a complètement raison. Si on le regarde que le résultat, évidemment que le
mais toi je sais que tu ne regardes pas que le résultat.
Mais nous, si on regarde que les résultats, on ne sert à rien.
Il faut
quand même regarder un petit peu
plus en profondeur le fond de jeu,
me paraissent être tout simplement indispensables à regarder. Donc c'est-à-dire que déjà le match d'hier soir, mais moi j'ai dit bravo au Paris Saint-Germain, et notamment cette première mi-temps, mais avec des regrets. C'est ce Paris Saint-Germain là que je voulais voir contre Dortmund, l'équipe souhaitée par le Paris Saint-Germain.
Mais dis donc, c'est pas le même niveau en face, Roland.
Mais quand je vois l'intensité qui est mise, il y a pas de niveau dans les 45 premières minutes. J'aurais aimé voir ce Paris Saint-Germain rencontrer Dortmund avec ce comportement. Ensuite, mais si par exemple il faut rien regarder et que les 5 défaites en Champions League, c'est pas grave. Non, allez, on passe, on regarde pas. Si donc on regarde
pas. Si tu regardes, le Real Madrid n'a pas gagné beaucoup de matchs cette saison en Ligue des Champions et pourtant ils sont en finale.
Hein. Oui, mais si par exemple on regarde pas aussi les tirages au sort et les adversaires que tu as pu avoir, les scénarios avec les buts à la 90e minute, tout va bien. La Coupe de France, il la gagne en ayant reçu au Parc des Princes tous les tours. Je dis bravo, mais par contre, je passe tout de suite à Lyon et je suis déçu.
Presque tous les tours. Presque tous les tours. Ils sont allés à Castres contre Revel, ils sont allés à Orléans.
Je te parle pas des deux premiers, je te parle des 8e, quart et demi.
Mais ça, c'est le hasard.
Mais c'est le hasard.
J'ai l'impression d'entendre les mêmes la saison passée qui ont dit Toulouse a gagné la Coupe de France, mais il n'y avait pas beaucoup d'adversité.
C'est vrai.
Mais c'est un parcours. La Coupe de France, ça s'appelle un tirage.
Mais c'est le hasard.
Tu peux quand même préciser, Jeannot, qu'il y a des saisons où ça rigole, il y a des saisons où ça rigole pas. Si par exemple, tu es le Paris Saint-Germain et que tu rencontres City en 8e de finale et que tu es éliminé, tu dis, on n'a pas eu de chance dans le tirage au sort. Là, le tirage au sort, quand tu finis second et que tu rencontres la Real Sociedad, mais là c'est le bon Dieu qui te l'envoie ce tirage au sort. Bon, bref,
après ça va être bon ce que tu dis, mais moi je l'ai évoqué ce matin dans les grandes gueules du sport, je reste prudent parce que si samedi prochain Dortmund bat le Real Madrid, et je pense que c'est dans le domaine du possible, on dit quoi par rapport au Paris Saint-Germain? L'adversaire était finalement facile, ils ont fait la phase de poule et ils ont géré avec une victoire et un match nul.
Absolument.
Ils sont sortis avec 2 défaites, 1-0, mais pourtant sur le papier Paris était supérieur. Mais si Dortmund gagne la Ligue des Champions, diras quoi?
Si je suis le Paris Saint-Germain, j'ai encore plus de regrets. Parce que quand j'ai pas été capable de marquer un but dans les deux matchs aller-retour contre Dortmund, je peux quand même avoir des regrets. Si par exemple, avant un tirage au sort, on te dit, tiens, t'aimerais rencontrer qui? On te dit, surtout pas City, surtout pas le Real, surtout pas le Bayern et surtout pas Arsenal. On va essayer de te contenter. T'es content, ça a été ce tirage au sort. Et on te dit maintenant, contre qui t'aimerais tomber? Le Barça ou Dortmund. T'inquiète pas, ça va pas être le Barça ou Dortmund, ça va être le Barça et Dortmund.
Tu n'es pas honnête, excuse-moi de terminer.
C'est gentil ton compliment, j'apprécie. mais comme toi, tu es sûr de l'être honnête. Donc là, il y a pas de match. En ce qui concerne donc le parcours de Paris Saint-Germain, je dirais, je peux quand même, si je suis supporter de Paris Saint-Germain, et je me mets à la place des supporters de Paris Saint-Germain. Et en plus, avec ce que dit Jeannot, qui est tout simplement possible en football, parce que ça se joue sur un seul match, en plus. Là, il y a eu contre Dortmund, match aller, match retour. 0-1, 1-0. Si tu n'as pas des regrets après ça, tu n'auras jamais de regrets. Mais si, par exemple, au lieu d'avoir des regrets, comme Marion, si on nous avait dit il y a 6 mois de ça qu'on allait être en demi-finale et tout, ben là je me sens totalement impuissant. C'est vrai, si on t'avait dit ça, si on t'avait dit que tu allais rencontrer la Real Sociedad, si on t'avait dit que tu allais perdre à domicile contre Barça, si on t'avait dit que tu allais perdre 5 matchs en Champions League, eh ben ok, mais si on t'avait dit, mais là on essaye, je dis pas qu'on y arrive, on essaye de regarder un petit peu le parcours. Et ensuite, maintenant passons un petit peu à Lyon. Ben autant je suis surpris agréablement par la première mi-temps de Paris Saint-Germain, puis je suis vraiment très déçu. Ben oui. Alors maintenant, on peut dire aussi que si Lyon fait cette mauvaise première mi-temps, la principale responsable, c'est le Paris Saint-Germain. Oui, mais quand même pas. Parce que cette équipe de Lyon, qui cavale de tous les côtés, bim, bam, boum, quand je vois les deux ailiers habituels, je suis en train de regarder Lyon renverser des situations marquées quand on y pense plus. Et hier, mais ces deux ailiers là, deux fantômes, c'était des lapins qui cavalaient donc je dis, en résumé, agréablement surpris par le Paris Saint-Germain, des regrets de ne pas avoir fait ce match là contre Dortmund, et désagréablement surpris par Lyon.
Je voulais revenir sur le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions, la saison, très rapidement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Roland, parce qu'on oublie que le Paris Saint-Germain, dans l'idée de tout le monde, c'était en quart de finale contre l'Atlético. Mmh. Et finalement, on a eu un petit peu peur et un peu chaud quand ça a été contre le Barça. Et que ce que montre le Paris Saint-Germain contre le Barça, c'est pas uniquement parce que le Barça n'a pas été bon. Mmh. C'est aussi parce que le Paris Saint-Germain a su montrer des choses en Ligue des Champions. Donc moi, j'ai quand même vu une construction. C'est pas qu'une question de tirage. Bon, voilà. Donc,
mais ils se sont fait piéger quand même, Marion.
Ils ont bien perdu à domicile.
Ils ont réagi au match retour.
Absolument.
Ils ont réagi avec un penalty sifflé ou pas sifflé, mais surtout. Le tournant du match, c'est bien le carton rouge au match retour.
Oui, on est d'accord, mais enfin, le carton rouge, c'est pas.
On va pas refaire.
Simplement, ce que je veux dire, c'est les regrets, j'ai les mêmes que toi par rapport à la première mi-temps du Paris Saint-Germain, mais je suis désolé, Dortmund a piégé à deux reprise le Paris Saint-Germain. Et dans ce match-là, c'est pas Luis Enrique qui a été extraordinaire, c'est Terzic qui a été très bon avec une équipe qui l'a suivi de A à Z. Et Paris qui a pas trouvé la clé. Donc sur l'ensemble de la saison du Paris Saint-Germain, oui, il y a cette double confrontation contre Dortmund où Paris n'a pas réussi à faire quelque chose de grand. Oui. Voilà. Et Luis Enrique avec.
Mais ce qui est dommage.
Ouais, c'est ce que regrette coach, effectivement. On va continuer de parler du Paris Saint-Germain. Je sens que ça vous emballe. On va parler de Kylian Mbappé. Tiens, dans quelques instants aussi. Un point score à Roland-Garros avec Julien Taxis. Salut Julien.
Salut Flora.
Comment s'en sort notre Richard Gasquet national?
Eh bien, Richard, ça tient. Ça tient pour l'instant, une manche à rien. 5-4 pour Borna Čoric dans la deuxième manche. Il a eu plusieurs opportunités de break. Richard Gasquet, il s'énerve un petit peu là au changement de côté. Il a eu 6 balles de break, si je ne m'abuse, non converties dans cette deuxième manche. Il s'accroche, Richard Gasquet. On voit que ça commence un petit peu à grincer, notamment sur le déplacement. Mais il va chercher le public et le soutien également du cours Suzanne Lenglen. Pour l'instant, Richard Gasquet est devant 7-6, mais 5-4 pour Čoric dans le deuxième set.
Et rapidement, t'as un œil sur Caroline Garcia?
Ouais, là c'est un petit peu de ces deux ambiances pour nos Français, même si elle s'accroche. Caroline Garcia, elle est menée une manche à rien, 4 partout dans le deuxième set. Pour l'instant, elle fait la course derrière l'Allemande Evalice. Elle s'accroche, mais elle n'arrive pas pour l'instant à breaker dans cette deuxième manche. Énormément de fautes directes pour Caroline Garcia. 25 coups gagnants, mais 34 fautes directes. Le ratio et les calculs sont pas bons pour l'instant pour Caroline.
Puisqu'on va continuer de parler du Paris Saint-Germain, juste pour faire réfléchir, sur 53 matchs, 18 clean sheets simplement cette saison et 3-0-0, ce qui était quand même assez c'est rare dans le passé pour le Paris Saint-Germain par rapport à sa grosse domination. Et sur les 12 derniers matchs, 4 défaites, dont les 2-1-0 contre Dortmund. On relance.
Ça fait réfléchir. Ouais, merci, Orange. C'est comme ça au moins, ça nous fait un petit tease pour. Voilà, exactement. 18h17 sur RMC, on revient tout de suite. Jeannot, Marion, coach, pour parler encore du Paris Saint-Germain, de Kylian Mbappé notamment, qui a joué son dernier match hier avec le PSG. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. 18h21, on est de retour dans l'Intégral Sport sur RMC avec Coach Courbis, avec Marion Hédalo, avec Jeannot Rességuier. On continue de parler de la finale de la Coupe de France hier remportée par le PSG de Buzyn face à Lyon. On a un œil aussi évidemment sur Roland Garros avec Richard Gasquet qui mène toujours 2-7-1 face à Borna Čoric, mais 5-4 pour Čoric dans cette deuxième manche. C'est chaud aussi pour Caroline Garcia qui va peut-être remporter le deuxième set. Elle avait perdu le premier. On vous tient évidemment informé. Messieurs, dames, on va continuer de parler du PSG.
PSG, notamment de Kylian Mbappé, évidemment, parce que c'était son dernier match. Ça y est, on peut enfin le dire, avec le Paris Saint-Germain hier soir.
Et il a été honoré, il a été fêté par son coach, par
tous ses coéquipiers
et également les supporters du Paris Saint-Germain, avec quelques échanges, avec notamment la Coupe de France brandie vers le virage.
Ouais, et d'ailleurs
avec le président.
Ah, une poignée de main.
Là, par contre, j'irai pas jusque-là.
Dans les bras du président. Rapidement, mais j'ai été assez étonnée de
cela. Petite image de com. Effectivement. Oui. Il est passé d'ailleurs devant les médias après la rencontre. Kylian Mbappé, on sait qu'il choisit toujours bien les moments où il parle. Évidemment, tu l'as croisé évidemment, Jeannot. Raconte-nous un petit peu les coulisses comme ça de sa dernière. Comment il était? On l'a vu tout sourire sur la pelouse. Est-ce que c'était sincère? Est-ce que c'était? Raconte-nous un petit peu tout ça.
Non, mais sur la pelouse, de toute façon, au coup de sifflet final, il y a déjà Luis Enrique qui le prend par le cou. Il y a une grosse accolade, beaucoup de sourires, une discussion entre eux. Alors on sait que les relations n'ont pas toujours été extraordinaires entre les deux, mais bon voilà, il y avait ce sentiment là de dire c'est fini pour toi mon gars, t'as fait ta finale, t'as pas marqué, mais bon, t'as pas été totalement transparent, mais t'as quand même été impliqué. C'est ce que dit d'ailleurs Luis Enrique en conférence de presse. Après, il est quand même porté en triomphe par ses partenaires, par les membres du staff. On le voit sourire, échanger avec chacun d'entre eux, avec notamment la Coupe de France quand ils sont face au virage des supporters du Paris Saint-Germain. Et puis après, la Coupe de France, quand tu gagnes, avant de voir arriver des joueurs, t'en as pour un petit moment en zone mixte, quand parfois tu n'en vois pas beaucoup arriver. Là, c'était Fabien Ruiz et Kylian Mbappé avec Valentin Jamin, qui était en zone d'interview avec Fabrice Hawkins. Donc voilà, après il est arrivé, et quand il est arrivé, il était tout simplement venu dire que pour lui, parce qu'il avait fait quand même la tournée des diffuseurs avec Bein et France Télé avant, donc on était vraiment dans la com, et la question lui a été posée: quand allez-vous, ou pourquoi ne dites pas que vous allez signer au Real Madrid, que vous allez aller au Real Madrid? Et là, il dit ça sera en temps et en heure. Bon, oui, mais quand la semaine prochaine, il y a la finale de Ligue des Champions. À partir de mercredi, il est quand même capitaine de l'équipe de France. Il va être à Clairefontaine. Voilà. Mais en tout cas, pour lui, c'est toujours la gestion de la communication. Et je pense, alors je serais quand même très surpris, mais bon, pourquoi pas, il y a plein de choses qui ne m'étonnent plus, que ce soit Mbappé qui communique et pas le Real Madrid. Je pense que c'est plutôt le Real Madrid qui communiquera le fait que Mbappé a signé chez eux.
Une fois que la finale sera terminée, en plus.
Oui, logique ou pas logique, ils se mettront d'accord les deux.
Bien sûr.
Qui fera quoi?
Après, le rassemblement va se faire sans les joueurs du Real, sans Camavinga, sans Tchouaméni, même si on ne sait toujours pas où il en est physiquement. Ouais. Et sans Ferland Mendy, va se faire sans les joueurs de l'AC Milan, avec notamment Maignan, Giroud et Théo, qui vont au bout du monde en Australie jouer un match très lucratif contre la Roma le 31 mai prochain. Donc voilà, il n'y aura pas ces joueurs-là à Clairefontaine, mais il y aura toujours Kylian Mbappé avec ces 19 joueurs-là. Est-ce qu'à un moment donné, il aura l'autorisation d'aller à Madrid pour être présenté? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui.
C'est vrai que quand on voit les échéances,
ça a déjà existé. Souvenez-vous, Anthony Martial qui quitte Clairefontaine pour aller signer à Manchester. C'est déjà arrivé. Moi, je suis assez impatient de voir de quelle manière, justement, cette communication-là va arriver.
Mais je crois que déjà, la chose la plus importante pour moi, c'est qu'elle ne se fasse pas avant la finale.
Je pense pas.
Ah non, mais ça, c'est impossible pour le coup.
C'est inconcevable.
J'imagine mal Carlo Ancelotti dire
on parle d'un club comme le Real Madrid.
D'ailleurs, si elle ne s'est pas encore fait, c'est parce que le Real est en finale. Sinon, il n'y aurait eu aucun problème pour le dire. Alors que là, dire à son arrivée, même si c'est maintenant un secret de polichinelle et que tout le monde est au courant, je crois que vis-à-vis des joueurs du Real, vis-à-vis en plus des attaquants du Real ou des joueurs offensifs du Real, on peut attendre quand même que la finale se passe.
Moi, je trouve quand même que la communication de Kylian Mbappé ces quelques derniers mois a pris un peu de plomb dans l'aile quand même, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de supporters et français et parisiens un peu exaspérés par son comportement, son côté diva, son côté il y a beaucoup de gens à Cannes par exemple, et pourtant c'est hors football, qui ont trouvé son comportement assez pas assez exemplaire, ne signant pas d'autographe, ne faisant pas de photos. Viens pas à Cannes mon pote si tu veux pas signer de photos. Signer des autographes, des photos, des machins, c'est obligatoire d'aller vers les enfants, les machins, les parents, faire des sourires, des, et j'ai peur quand même.
Il était à Monaco d'ailleurs,
il était à Monaco, bien sûr, sans un sourire. et ça, je pense que ça va finir par exaspérer beaucoup de gens. Donc il a intérêt à prouver sur le terrain, parce que ça, on lui pardonnera pas. Et je pense qu'il n'est pas non plus totalement prêt physiquement. Je trouve qu'il a grossi, Kylian Mbappé, pour l'Euro.
Bah, c'était la transition parfaite. Merci,
parfait.
Marie,
évidemment, c'était la danse comme ça.
On se projette, on a parlé déjà un petit peu, Jeannot, de ce rassemblement qui arrive très rapidement. Parce que c'est vrai que les échéances, ça arrive très rapidement pour tous les joueurs, pour lui et les autres, d'ailleurs.
On est dans une saison compliquée pour Kylian Mbappé. On n'oublie pas qu'il a été écarté, mis dans un loft au début de saison, parce qu'il ne voulait pas prolonger. Qu'à partir du moment de l'après, on va dire, huitième de finale en février.
C'est vrai que tout ça, c'était dans la même saison.
Oui, quand il dit en interne, je ne prolongerai pas et je vais partir. Que ça a fuité, parce que ça, ça l'a beaucoup agacé. Quand il en a parlé, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient présentes. Ça a fuité dans les médias et volontairement, bien évidemment, ça a filtré jusqu'à nous. Donc, quelque part, cette saison, elle est compliquée. Et vous vous souvenez d'un gros match du Kylian Mbappé, pas avec le maillot du Paris Saint-Germain, même avec le maillot de l'équipe de France. Compliqué, compliqué d'en trouver un. Parce que depuis mars, il traverse comme ça, il est l'ombre de lui-même. Le match contre l'Allemagne, le match contre le Chili, puisqu'on parle de l'équipe de France, il n'a pas été bon, il était transparent. Et derrière, allez, peut-être un petit peu mieux à Barcelone, mais ensuite, on a du mal à trouver un match référence pour Kylian Mbappé. Et c'est peut-être ça, Marion, qui agace les supporters, justement sur le fait qu'il n'a pas apporté ce plus, ce supplément d'âme permettant au Paris Saint-Germain d'aller chercher quelque chose de grand, c'est-à-dire la finale de la Ligue des Champions.
Ouais, coach, légitimement, on peut s'interroger sur la forme de Kylian Mbappé là avant l'Euro.
Non. pour moi, c'est clair et net. Et je pense que comme c'est un garçon qui est capable de surprendre, mais je serais agréablement surpris si dans quelques jours là ou quelques semaines, 15 jours, il soit en forme comme le Mbappé qu'on a connu. Alors que pour moi, c'est une saison qui est quand même lourde à porter. Je le dis, je le répète, je l'ai dit 50 fois, je le dirai une 51e fois, il est maladroit de partir du Paris Saint-Germain dans cette intersaison là, lui et son entourage. Déjà, et je touche du bois, je suis agréablement surpris qu'il se blesse pas. Parce que j'ai toujours entendu dire que quand tu avais des problèmes dans ton cerveau, musculairement, à la moindre occasion, tu te baissais. Lui, il arrive quand même à être, je dirais, dangereux. Et si, par exemple, on regarde uniquement le match de Mbappé hier, sans penser que rien que la présence d'Mbappé sur un terrain de football, c'est quand même un plus pour ses coéquipiers par rapport aux soucis que doit avoir l'adversaire. On peut pas se dire, bon, ça va, Mbappé, il n'est pas en forme. Non, on est obligé quand même de faire gaffe. Et hier, il y a quand même eu 3-4 situations où là, on a bien vu qu'on avait un Mbappé à 50% parce que ce tir enveloppé là, dont il a quand même une certaine adresse et tout.
Lucarne opposé au premier poteau parce qu'il a les deux quand même.
Voilà, donc hier, quand j'ai regardé en faisant un petit peu la grimace en disant décidément, il n'est pas en grande forme parce qu'un Mbappé en grande forme hier, le score, c'était pas de 1.
Après, je crois que là, la page est tournée. La saison compliquée que tu évoquais à l'instant.
Mais elle n'est pas finie. Non, l'équipe de France.
Oui, mais justement, elle est tournée. Et quand il va arriver au château, mercredi prochain, avec Didier Deschamps, déjà comme d'habitude, il y aura discours, discussion avec le coach et avec le capitaine. Cyril Moine va prendre en main tout ça, le préparateur physique, et vont être mis en place différents tests. Et tu verras que Kylian Mbappé sera complètement transformé. Et si entre-temps, en plus, il y a l'officialisation de son contrat au Real Madrid, tu auras, et j'espère que ça va se faire avant l'Euro, et tu auras un vrai Kylian Mbappé pour le championnat d'Europe. En tout cas, on peut l'espérer.
On peut le retrouver, ça c'est sûr.
Peut-être aussi, on rajoute un Mbappé aux Jeux Olympiques. Tant qu'on y est. Donc, et finalement, dans son nouveau club, c'est pas n'importe quel club, le Real Madrid, il s'entraîne quand? Il prépare son intersaison et sa saison quand?
Mais tu crois, toi, aux Jeux Olympiques?
Mais il n'y a plus rien qui m'étonne.
Ok.
Ça dépendra aussi de dans quel club il joue à ce moment-là, hein, parce que ça dépend aussi du club qui veut bien le libérer.
Pour aller jouer. Le Real Madrid, ils ont été clairs. À part les Espagnols, ils libèrent personne d'autre.
On a une première réponse.
La même chose.
Et puis on connaît le caractère.
Il n'ira pas aux Jeux Olympiques, il pourra s'entraîner.
Moi, j'oublie pas que Kylian Mbappé s'est beaucoup plaint de ses coéquipiers, alors qu'il a eu Neymar, il a eu Messi, il a eu Di Maria, qui était quand même l'un des meilleurs passeurs de la décennie. J'attends de voir aussi ce que ça va donner avec un gars comme Vinicius ou
Jude Bellingham.
Il y a de l'ego aussi là.
Il va arriver dans
un autre environnement aussi. Allez, un point Roland-Garros avec Caroline Garcia, hein, Julien, qui est revenu, hein, 7 partout.
Oui, ça va un petit peu mieux pour la numéro 1 française qui effectivement a su serrer le jeu et aller chercher cette deuxième manche en allant aussi chercher le soutien du public du cours central. 7-5 pour Caroline Garcia après avoir perdu le premier set, 6 jeux à 4.
Et Richard Gasquet.
Et Richard Gasquet, deuxième set très très accroché pour notre Vichy national. On en est à 6-5 pour Čurić, 30-0 sur le service de Richard Gasquet qui a eu d'innombrables balles de break non converties dans cette deuxième manche. Ça serait mieux qu'il remporte le deuxième parce que si l'on va sur un match en 4-5-7, ça ne jouera pas en faveur du Biterrois.
Ça va être dur physiquement pour lui. 18h32 sur RMC, on revient dans quelques instants dans l'intégral sport. On va parler de Lyon cette fois-ci. Je sais que le PSG vous inspire beaucoup, mais on va rester un petit peu sur Lyon. Le bilan de cette saison et la suite à venir pour les Lyonnais. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi. 18h37, on est de retour dans l'Intégral Sport sur RMC. On va parler foot dans quelques instants, mais d'abord l'arrivée de la dernière étape du Giro, Johan.
Et ça vient de se terminer, la victoire de Tim Merlier à l'instant devant Jonathan Milan. Beaucoup trop court le maillot cyclamen, il a crevé à quelques kilomètres de l'arrivée, il a laissé beaucoup trop d'énergie pour remonter toutes les voitures, remonter le peloton, et il s'incline face aux Belges. Troisième victoire pour Tim Merlier, trois victoires également pour Jonathan Milan. Voilà les deux meilleurs sprinteurs qui font 1 et 2 sur cette dernière étape qui voit consacrer évidemment Tadej Pogacar avec son beau maillot rose qui va monter sur le podium. Premier Giro pour Tadej Pogacar pour sa première participation. Maintenant l'objectif c'est le Tour de France.
On sera au rendez-vous sur AMC. Merci beaucoup Johan. Un mot de Richard Gasquet qui est dans le tie-break encore une fois, Julien.
Ouais, deuxième tie-break pour Richard Gasquet. C'est toujours aussi accroché sur le cours Suzanne Lenglen. 3-2 avec un mini-break pour le Français qui est au service pour conserver cet avantage. Et puis concernant Caroline Garcia, on est dans la troisième manche. Elle avait breaké, elle a été débreakée dans la foulée, mais ça va quand même un petit peu mieux pour nos Français. Je vous donne rapidement le score également d'Alexandre Muller sur le cours numéro 7 face à Luca Nardi, l'Italien. 6-4, 2-0 pour le Français. Break dans la deuxième manche.
Amazon vous livre Roland Garros. Dès le 26 mai, profitez des 11 matchs du soir sur Prime Video. Abonnement payant obligatoire, voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime.
On va suivre évidemment cette quinzaine parisienne pour le début de Roland-Garros sur RMC. On est avec Coach Courbis, avec Marion Hidalgo, avec Jeannot Rességuier. On a parlé du PSG un petit peu plus tôt après la finale de la Coupe de France remportée par les Parisiens. Place à Lyon maintenant. Coach avait commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, malgré la défaite hier soir, peut se satisfaire quand même de cette saison à rebondissement. Jeannot, c'est facile pour nous de dire ça évidemment avec du recul, mais on imagine quand même la déception des Lyonnais après ce match. Ils y ont cru mine de rien avec ce but de Brian qui les remettait un petit peu dedans à la fin.
En tout cas, le but a complètement transformé le stade. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a vraiment vécu une ambiance Groupama Stadium, hein, pour être clair là-dessus. Les Lyonnais ont pris le dessus, les Lyonnais ont poussé, et malheureusement, il y a eu cette réduction de l'écart. Et encore une fois, la parade de Donnarumma sur la tête de Tagliafico, c'est quasiment la copie conforme du but d'O'Brien. Il est juste derrière lui. D'ailleurs, on croit que c'est l'Irlandais qui va remettre le couvert en mettant la tête au premier poteau. Et finalement, c'est Tagliafico, et la parade de Donnarumma est magnifique. Et c'est peut-être là le tournant d'ailleurs de la finale, parce que à ce moment-là, on a des Parisiens emprunts par le doute, et derrière on a des Lyonnais qui commencent à mettre un petit peu le nez à la fenêtre,
dans la récupération. Des scénarios qu'ils ont vécu ces dernières semaines.
Qui donc sont dans des situations de contre-attaque, ce qu'ils ont su faire pour renverser trois matchs contre Brest, contre Lille et contre Monaco. Donc à ce moment-là, on y a cru. Et d'ailleurs, Pierre Sage dans sa conférence de presse d'après match a évoqué le fait que leur première mi-temps était très mauvaise et que en jouant comme ça ils pouvaient pas gagner la Coupe de France, mais très vite il a positivé et il a expliqué que il avait tout simplement beaucoup de fierté pour ce groupe qui a su l'écouter, qui a su vraiment être transformé par le discours de Pierre Sage, mais jouer le jeu, parce que quand tu vois débarquer Pierre Sage en tant qu'entraîneur intérimaire à la place de Grosso, que t'as eu Laurent Blanc avant, tu te dis oula, c'est qui,
surtout
c'est quoi,
la force de Lyon à ce moment-là.
28 matchs avec la finale de la Coupe de France, 20 victoires, 7 défaites, 1 match nul. Le bilan, il est là. Il a totalement transformé cette équipe et en plus, il lui a redonné confiance. Et en plus, il a été capable d'amener 1-2, là je me tourne vers toi coach, 3 schémas tactiques différents et même en cours de match, capable de faire des choses intéressantes. Ce qui a donné le sentiment à ce groupe de l'Olympique Lyonnais qu'ils étaient capables justement d'aller chercher quelque chose de grand sur la fin de saison. En décembre, ils étaient, avant de battre Toulouse 3-0, ils étaient 20e. Ils terminent 6e avec une qualification pour la phase phase de poule de la Ligue Europa. C'est juste miraculeux.
Ouais, quand on parlait dernièrement, juste pour Mbappé, on parlait de cette communication, hein, qui est quand même très importante dans l'époque que nous vivons. Et je le trouve très très bon quand il explique les choses. Je me mets un petit peu à la place de ces joueurs. Ça doit être clair, net, précis, et tout doit être compris. Après, quand tu es entraîneur, il y a un bilan. Il y a des fois tu es inspiré, d'autres fois tu l'es un petit peu moins. Sur le match d'hier, ben, cette première mi-temps, jamais personne, et surtout pas lui, pensait que Lyon allait être aussi mauvais dans cette première période. La faute au Paris Saint-Germain en premier, évidemment. Mais ce que fait Sage, et d'ailleurs je crois qu'au niveau des records, au niveau des stats, évidemment que les séries sont faites pour être battues. Et moi, je pense que ce qu'a fait Lyon, ça se battra jamais.
C'était fort. Marion, avant de t'entendre, juste, Julien Taxis, deuxième set pour Richard Gasquet.
Oui, c'est fait. Deuxième tie-break remporté par Richard Gasquet. Il est habité, hein, Richard Gasquet. Il est un petit peu.
Il y a tout le stade derrière lui en même temps.
Ouais, il est un petit peu au bout du rouleau. Je sais pas si Florent Serra a le temps de réagir, mais il est en train de nous sortir un gros match.
Richard. Ouais, non, c'est top ce qu'il a fait, parce qu'en plus il s'est procuré beaucoup d'occasions de break dans ce set sans forcément les concrétiser, et d'aller chercher ce second set, c'est top, parce que physiquement dans la tête ça fait du bien déjà mentalement de te dire que physiquement j'en ai deux, 7-6, 7-6, il faut que j'aille en chercher plus qu'un, et franchement il joue mieux, il fait plus de choses que Borna.
Il sert bien,
qu'on sent très tendu, et surtout Julien, comme tu le dis, il sert extrêmement bien et énormément, vous le voyez, 89% de points gagnés derrière la première, et ça c'est top parce que ça lui procure un petit peu des petits moments de repos, des points gratuits.
Et il va faire un petit tour au vestiaire parce que ça joue depuis déjà 2h20 pour Richard Gasquet. Deux manches à rien face à Borna Turic.
Allez, plus qu'un set pour notre Richard Gasquet national. On parlait de Lyon avec Jeanne, ou avec coach, avec toi Marion, si on essaie de se projeter un petit peu aussi pour la suite maintenant pour les Lyonnais, vu le bilan que vient de dresser Jeannot de Pierre Sage.
Ne perdons pas de vue qu'il y a eu quand même 50 millions d'euros d'investissement de Textor au mercato d'hiver.
Exactement, le mercato d'hiver,
avec des joueurs qui ont été buteurs, Mangala, Benrahma, Fofana, que la Lacazette a mis 18 buts en Ligue 1 mais qu'il en a mis 12 avec le nouveau coach. Bon, quelque part il y a des circonstances qui font qu'à un moment précis sur cette partie de saison les choses se sont passées, l'investissement du propriétaire et derrière le côté tactique de Pierre Sage.
Oui, mais Marion, c'est sur ces bases-là en tout cas que Lyon doit revenir pour la saison prochaine, parce que là ils ont terminé très très fort.
Oui, en fait il faut que Lyon revienne à ce qu'il connaissait avec Aulas, c'est-à-dire un entraîneur maison, Pierre Sage, comme il y en a eu d'autres, comme il y avait Rémi Garde. Je pense plutôt que Lyon a erré un petit peu ces dernières années en allant chercher des entraîneurs étrangers, en essayant des choses un petit peu pour ressembler un petit peu à ce qui se fait ailleurs, à Monaco, à Paris, mais c'est pas l'ADN de Lyon. Lyon, c'est vraiment aller prendre un entraîneur lyonnais du cru qui est à la formation, et puis faire confiance aux jeunes, évidemment. Alors évidemment, quand il n'y a pas de génération, c'est plus difficile. C'est pour ça que les transferts, il y en a eu 6 ou 7, effectivement, cet hiver. Bah, c'est toujours intéressant.
Après, c'est maintenant un coach atypique, Marion. Hein.
Oui.
Il est arrivé pour être à la formation, mais il n'était pas à Lyon. Il est allé travailler dans le milieu amateur, à Bourg, au Restart. Enfin, il a un parcours complètement atypique. Et aujourd'hui, on va peut-être, parce que moi, je reste prudent, on va peut-être lui donner les clés du camion la saison prochaine.
Hein. Moi, je trouve que ce serait une très bonne chose. Maintenant, je suis toujours un petit peu déçu que Lyon se retrouve évidemment sixième, mais vu leur parcours, c'est tout à fait.
C'était pas l'ambition. Oui, c'est sûr.
Voilà, c'est ça.
Ils sont contents parce que vu la saison qu'ils ont fait, évidemment, ils terminent à cette place-là. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres ambitions.
On a connu l'OL en demi-finale de Ligue des Champions il y a pas si longtemps. Moi, je suis toujours un petit peu inquiète pour la Ligue 1. Je l'ai dit chaque semaine ici. Vous en pouvez plus, Roland, Flora, d'entendre ça tout le temps. Mais c'est vrai que. Voilà, maintenant qu'on sait que Brest est en Ligue des Champions, bah parfois on se dit que c'est un petit peu dommage que ça pourrait être la place de l'OL, étant donné en plus le problème des droits TV. Donc voilà, mais je trouve que c'est de très bon augure pour la suite.
Et après, reste à savoir s'ils vont protéger justement cet ADN lyonnais, parce qu'on se pose des questions sur Lacazette, dont on dit qu'il est possible qu'il s'en aille.
Anthony Lopez qui va partir.
Saoudite, il y a Lopez qui va partir, il y a Tolisso qui se pose des questions. Donc voilà, il y a toute cette jeunesse aussi qu'a créé Cherki, il y a des interrogations par rapport à ces joueurs-là. Est-ce qu'on est parti sur une autre façon de travailler à l'Olympique Lyonnais avec l'arrivée de Textor et en prouvant ce qu'il a été capable d'investir l'hiver dernier? Restons prudents quand même sur la structure de l'équipe la saison prochaine.
On aura le temps évidemment d'en parler tout cet été avec le mercato qui va s'ouvrir aussi bientôt. Il y aura des rebondissements. 18h46 bientôt sur AMC. On revient dans quelques instants pour la dernière ligne droite avec Denis Sapia, le latéral droit de l'AS Saint-Etienne, qui sera notre invité dans quelques instants. À tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Sport.
Florent, 18h49 sur AMC. On est de retour dans l'Intégral Sport avec la dernière ligne droite. Après, ce sera Bartoli Time avec Jean-Christophe Drouet, avec Sarah Pitkowski et avec Raphaël Nadal, s'il vous plaît, en invité. On va remercier Jeannot Essegué d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Jeannot. Vous avez parlé de Saint-Etienne, c'est ça?
Exactement.
Hein, salut, on salue quand même le parcours des Ruthénois cette année.
Oui, hein, oui,
4e,
oui.
4e, barrage 10, play-off. Voilà.
Ouais, c'est pour te faire plaisir, vraiment.
Exactement. Je savais, c'était pour ça que je voulais récupérer le micro avant de partir.
Merci. Jeannot, on est toujours avec coach, avec Marion Edalon. On continue de parler de foot parce que vous le savez, si la saison de Ligue 1 est terminée, on ne sait pas encore qui sera le dernier promu la saison prochaine en compagnie d'Auxerre et Angers. Pour le moment, Saint-Etienne est bien parti, mais il reste encore un gros pas à franchir pour les Verts pour retrouver l'élite. Et Denis Sapia, le latéral droit de l'AS Saint-Etienne, est notre invité dans l'Intégral Sport. Bonjour Denis.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de la suite et du reste du chemin encore à parcourir pour retrouver la Ligue 1, parce que c'est encore loin, mais on va quand même s'attarder sur ce match de vendredi soir. J'imagine beaucoup de soulagement après cette victoire en play-off face à Rodez 2-0.
Oui, ça fait forcément du bien de gagner à la maison, gagner 2-0 contre une équipe qui nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues cette saison, qui a été difficile ces dernières saisons à battre. Une équipe qui a fait un très beau parcours, il faut leur rendre aussi ce qu'ils ont fait cette saison, qui ont embêté pas mal de personnes aussi, qui ont mérité d'être quatrième en fin de saison et qui ont joué grandement leur chance pour essayer d'accéder à ce barrage.
Et on va quand même rappeler que jamais Saint-Etienne n'avait remporté un match de barrage jusque-là. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous aviez cette pression un petit peu sur les épaules ou pas?
Oui, mais j'avais entendu ça. Après, toutes les séries sont faites pour s'arrêter. Et,
la preuve.
Pas forcément, ouais, c'était pas forcément cette pression-là. C'était plutôt que la saison avait été longue. On n'avait pas réussi sur ces trois derniers matchs à prendre nos tickets pour remonter directement. Et donc, le plus dur, ça a été de refaire un reset, de repartir sur autre chose. Voilà, on s'est dit que le championnat était complètement terminé, qu'on arrivait sur des matchs de coupe, des matchs à élimination directe, des finales, en fait. Et que voilà, il fallait remettre tout à zéro et fallait aller chercher ce qu'on voulait depuis le début de saison, c'est-à-dire monter en Ligue 1.
Vous êtes quand même passé, vous avez raison de le préciser, par un peu toutes les émotions aussi dans cette saison, Denis, parce que jusqu'à la trêve, on était très loin de parler de monter en Ligue 1, mais plus de se maintenir en Ligue 2 quand même à ce moment-là. Donc vous avez changé un peu d'objectif au cours de la saison malgré tout.
On ne parlait pas forcément de maintien, honnêtement, nous, à l'intérieur. Mais c'est vrai que plus les semaines avançaient, et plus on s'éloignait aussi des premières places. Et donc ça a été dans un premier temps de se rendre compte de ce qu'on était capable de faire, de ce qu'on était en train de lâcher justement dans cette saison, et que voilà, si on se remettait à être un rouleau compresseur, à garder la tête froide et à gagner chaque fois nos matchs, à tuer les adversaires tout en étant froid, et bien on allait se rapprocher de quelque chose de très beau. C'est ce qui s'est passé durant la saison, peut-être plus vite que ce qu'on aurait prévu, et du coup sur les trois derniers matchs, en laissant beaucoup de force, je pense qu'on n'a pas réussi justement à finir ce qu'on avait commencé. C'est ce qui est dommage.
Après une série extraordinaire, déjà, bonsoir et bravo.
Coach, mais t'avais reconnu la voix, bonsoir, je pense, Denis.
Pour cette saison, bon, évidemment, je suis un petit peu ce qui se passe dans des clubs qui, pour moi, sont les clubs importants de notre, football français. Et ce qui se passe à Saint-Etienne ne peut pas laisser indifférent. Avec en plus un garçon que j'aime bien comme Dalloglio, qui est arrivé en cours de saison. Mais là, je crois que ça a dû être difficile de digérer les trois derniers matchs avant de passer
au
match de Rodez. Mais c'est surtout le scénario. Tu te retrouves pratiquement, tu es en première division, tu te retrouves en train de mener 2-0 à Guingamp et tu fais 2-2. Derrière ça, tu mènes 1-0 à domicile contre Rodez, tu fais 1-1. Et pour couronner le tout, si je peux me permettre de dire ça, ben, il y a Angers qui est pas capable de gagner à domicile contre Dunkerque. Et vous perdez à Quevilly qui est déjà en troisième division en National 1. Sincèrement, derrière ces trois matchs-là et cette soirée où vous avez dû apprendre le, des rentrées au vestiaire que Angers n'a pas été capable de et que vous pourriez dès ce soir-là être déjà en Ligue 1. Eh ben les barrages, ça devient pénible. Donc bravo d'avoir pu avaler, digérer ces trois matchs-là et de battre Rodez qui venait eux de faire un exploit, voire un miracle contre Paris Football Club. Donc je tenais à te dire bravo.
Ah, merci coach. Non, ce qui était difficile honnêtement, comme vous le dites, c'est forcément au-delà des scénarios du match, c'est surtout que pendant les matchs, on avait beaucoup d'occasions, on avait beaucoup de situations pour tuer les matchs, on n'a pas réussi à le faire. Et que ce soit à Guingamp, que ce soit contre Rodez, on n'avait pas réussi à le faire. Et c'est vrai que contre Quevilly, on a l'impression que tout était contre nous, on n'arrive pas à marquer, le ballon était arrêté sur la ligne. Le gardien fait le match de sa vie.
Le poteau.
La barre qui peut nous permettre de revenir à 1 et pourquoi pas d'enfermer le match. Donc c'est vrai qu'il a fallu digérer tout ça, mais je pense qu'on a réussi à le faire pour une simple et bonne raison, c'est que je l'ai dit moi en interview juste après le match de Quevilly. Je pense que le plus dur, c'était pas forcément de revenir sur ce match contre Rodez et de gagner, mais je pense que c'est ce qu'on avait fait avant, notamment quand on avait été perdre contre Dunkerque en fin janvier, où là tout le monde nous croyait vraiment mort, où là c'était vraiment difficile de remettre les têtes à plat, de remettre tout à zéro et de repartir. Je pense que de reprendre 14 points en février à Angers et d'être à la lutte
ça ressemble au voisin amical que vous avez avec Lyon là.
Exactement.
Bon Denis, il y a quand même évidemment ce barrage à venir face à Metz, la première manche à Geoffroy Guichard jeudi. On doit s'attendre à une énorme ambiance, j'imagine. Il y a déjà 15 000 billets qui ont été vendus dès l'ouverture de la billetterie réservée aux abonnés. Ça va être chaud hein.
On peut faire confiance en notre public, ça fait maintenant 2 mois que le stade est rempli. Vendredi, c'était exceptionnel, honnêtement, ça a été la meilleure ambiance de toute la saison. Je pense qu'ils sont motos aussi d'un niveau sur ce match-là. Donc nous, on peut que les remercier de nous soutenir et de nous faire confiance. Nous, là, on se repose très bien, puis on prépare le match avec forcément plus de confiance que la semaine dernière. Mais on sait qu'on a deux grandes finales à faire, que ça va pas être facile du tout, parce que même si Metz a eu des difficultés cette saison, c'est quand même l'équipe de Ligue 1 qui rencontre l'équipe de Ligue 2. Mais nous, on a nos chances, on va grandement les jouer.
Avec deuxième match possible. Deuxième match chez l'équipe.
Chez eux, effectivement. Mais plus qu'une marche à franchir, Denis, malgré tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'Intégral Sport et bonne chance à vous pour cette fin de saison.
Merci, à bientôt.
Merci beaucoup. Merci, coach. Merci, Marion.
Merci beaucoup
d'avoir été avec nous. Marion. Toujours 2-7-0 pour Richard Gasquet face à Borna Koric. 0-0 dans la troisième manche pour le moment. Et Caroline Garcia mène 4-2 dans la troisième manche. Elle vient de faire le break. On espère une qualification à venir. Ce sera dans Bartoli Time tout de suite avec Jean-Christophe Drouet et Sarah Pitkowski. Salut à tous les deux.
Bonsoir à tous. Tout va bien?
Ouais, je crois que t'as un petit invité ce soir, non?
Alors, il y a un casting absolument exceptionnel ce soir pour l'émission Bartoli Time. Déjà, évidemment, c'est à 19h30, c'est l'événement. Raphaël Nadal sera cette émission, interview réalisée par Marion Bartoli. Également l'un des héros toulousains, Romain Ntamack, sera également dans notre émission.
Après et puis c'est tout ?
Victoire en Champions Cup face au Leinster. Non, ce n'est pas tout, car c'est une exclusivité BFM et RMC. Dans quelques instants, vous allez entendre Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, qui réagit pour la première fois après les incidents entre les supporters lyonnais et les supporters parisiens hier soir.
Et bien ça c'est tout de suite, restez bien sur RMC, Bartoli Time arrive tout de suite.